Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Salim Bongali.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h quasiment sur RMC. À cette heure-là, le samedi, c'est Multiplex Ligue 2, sauf que ce week-end, les clubs de l'antichambre de la Ligue 1 sont concernés par le 7e tour de la Coupe de France, avec quelques surprises déjà. On aura l'occasion d'en parler dans l'émission. Mais d'abord, quelques infos autour du PSG 3. Forcément, débrief complet même autour de cette rencontre. Une victoire in extremis des joueurs de Christophe Galtier, 4 buts à 3. On parlera aussi de l'adversaire du PSG en Ligue des Champions mercredi prochain, la Juve, qui joue d'ailleurs en ce moment. Yann Crochet sera avec nous dès la fin de cette partie. On évoquera aussi l'équipe de France, car Karim Benzema est une nouvelle fois forfait pour le match du Real en Liga ce week-end. Est-ce que vous avez peur pour sa participation au Mondial qui démarre dans 3 semaines? On en parlera avec Fred Hermel. Et puis, à partir de 20h, on se penchera sur le match entre Strasbourg et Marseille. Adrien Valentin vous attend, et pas qu'un peu, au 32-16 pour réserver vos places. Déjà, je vous l'ai dit, pour le Paris Saint-Germain, mais donc également pour ce Strasbourg-Marseille, puisque les choix de Tudor sont évoqués, débattus. Vous avez un avis, vous voulez le défendre, faites-vous plaisir. On parlera aussi des limites de cette équipe phocéenne à 3 jours de son match de Ligue des Champions face à Tottenham. On s'attardera aussi sur le Racing, une seule victoire cette saison en 12 journées de Ligue 1. Êtes-vous inquiet pour le club alsacien? Êtes-vous inquiet pour Julien Stéphan? De tout cela, on en parlera avec Sébastien Piocelle. Bonsoir Seb.
Bonsoir Salim, bonsoir.
Comment ça va?
Ça va.
Il y en a des choses à raconter ce soir.
Ah ouais, en plus, j'apprécie d'être avec toi.
Et, plaisir partagé. On le disait à l'instant, 32-16 pour évoquer Strasbourg, Marseille, le Paris Saint-Germain, mais aussi l'application RMC, l'onglet Direct Studio, vos messages qui seront lus à l'antenne. Et même si vous voulez donner, tiens, des scores de Coupe de France, des petits clubs qui ont joué vos clubs, ben, n'hésitez pas à le faire, à l'évoquer dans vos messages, et on se fera un plaisir de transmettre les résultats. Vous êtes en voiture, dans les transports en commun chez vous, RMC est là pour l'Intégral Foot. Avec notamment pour commencer donc ce Paris Saint-Germain 3, Messi, Neymar, Mbappé et Solaire pour une victoire des Parisiens. 4-0, non, 4-3, oui, 4-3 face au club de l'Aube. Sébastien, objectivement, en préparant cette rencontre, je pensais, moi, comme d'autres, qu'on allait évoquer une victoire sereine, tranquille du PSG. Tiens, tout de suite, Seb, quel est ton premier sentiment avec ce score, avec ce match?
Moi, mon premier sentiment, c'est que Paris a fait le job. Voilà, il y a plein de choses à dire, bien sûr, 4-3 contre 3. Mais globalement, avec les quelques changements, notamment au niveau défensif de la part de Christophe Galtier, bien sûr qu'ils auraient pu éviter certains buts. On va certainement en parler. Mm-hmm. Mais voilà, ça reste quand même malgré tout une machine. Dans le contenu, il y a des choses à revoir. Mais bon, voilà, 35 points sur 39 possibles face à une équipe de 3 qui était venue surtout pour défendre, même si finalement ils ont marqué 3 buts, mais on les a vus très très bas sur le terrain. Et voilà, Paris a fait ce qu'il fallait et a conforté sa première place.
Juste Seb, encore une fois, n'hésitez pas, encore une fois, 32-16 pour évoquer ce match entre le PSG et 3. Également vos messages, l'application RMC et l'onglet Direct Studio, vos messages qui seront lus à l'antenne. Seb, vous évoquez effectivement la mission accomplie, mais on est entre 2 matchs de Ligue des Champions. Alors certes, le Maccabi, ça s'est bien passé, mais il y a beaucoup d'interrogations avant ce Juventus-PSG. Et là, les interrogations défensives, pardon, mais elles sont là quand même.
Non, mais clairement, en plus, bon, encaisser ce but aussi rapidement, être mené à domicile, c'était certainement pas dans les plans de Christophe Galtier et ses joueurs. Après, dans la réaction, et notamment certainement au niveau du plan de jeu de 3, je pense pas que Bruno Herlès s'imaginait mener au score aussi rapidement.
Absolument.
Donc, ce qui a intensifié, on va dire, son bloc, pour pas dire le bus de son 5-4-1 très très bas, là, juste devant la surface de réparation. Donc, après, il a fallu du talent. il a fallu aussi un peu de patience et tirer les lignes. Et puis finalement, on a vu, mis à part la frappe lointaine de Léo Messi, sinon des joueurs se projeter pour marquer, donc arriver de très loin, notamment sur le but de Soler et de Neymar. Il y a des choses à revoir, mais c'est plutôt dans le comportement défensif sur les buts encaissés où ça a manqué un petit peu d'agressivité, notamment sur le deuxième but où Kimpembe ne sert pas assez Baldé.
Tu évoques cette défense, on va en parler de cette défense avec Malcolm qui nous a appelé au 32-16. N'hésitez pas encore une fois à faire comme lui. Bonsoir Malcolm.
Bonsoir, comment allez-vous tous les deux?
Mais très bien, et vous, supporter du PSG, ça va quand même?
Bah moi ça va, tu sais, bah une victoire ça fait du bien, même si les buts sur coup de pied arrêté ça devient insupportable. Cette semaine on s'est pris que ça, en finale on s'est pris 5 buts sur coup de pied arrêté. Et je commence à en avoir marre. J'adore Ramos, hein, comme le joueur qu'il était, mais j'en peux plus. J'ai l'impression que le mec qui va être à côté de lui va peut-être, je sais pas, j'ai l'impression que les DJ ils sont pas au top. Mais son niveau va diminuer parce qu'il va essayer de rattraper, il va devoir en même temps défendre pour Ramos, quoi. Donc,
c'est pas forcément l'impression que j'ai. Après, bien sûr que c'est plus le Ramos du bon vieux temps, mais je trouve que justement sur les buts encaissés, notamment le deuxième, c'est plutôt Kimpembe qui est à la faute, puisque tu peux pas défendre à 3-4 mètres d'un attaquant quand tu as 12 mètres de ton but. Alors toi, c'était plutôt de dire que celui qui est à côté, en fait, il le fait moins bien jouer, c'est ça?
Ouais, j'ai l'impression, on va pas se mentir, Kimpembe et Marquinhos ont plus de mal depuis le début de saison, mais que je sais pas quand ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont plus fiables quand ils sont tous les deux que quand c'est Ramos plus un des deux.
Mais faut rappeler un Presnel Kimpembe, pardon, qui revenait de blessure il y a quelques jours, qui n'avait joué que quelques minutes. Là, c'était sa première titularisation au final depuis quelques semaines. Est-ce que c'est peut-être cela, Seb, qui a fait qu'il était friable, justement, le Français? Ouais, parce qu'il y a encore une fois, il y a peut-être une perte de repère.
Oui, t'es en période de... Tu as un petit moment, on va dire, pour revenir dans le jeu. Ça c'est une certitude au niveau des repères, mais aussi au niveau physiologique. Mais ça n'empêche pas qu'avec toute l'expérience qu'il peut avoir, moi je reviens surtout sur le deuxième but parce que c'est celui-là qui m'a énormément surpris. Quand on est aussi proche de son but et de laisser autant de temps et d'espace à l'attaquant adverse. Mais oui, il faut un petit peu de temps. Moi, je suis pas forcément d'accord avec Malcolm sur le cas Sergio Ramos. Pourtant, on a été les premiers ici à le critiquer. Mais depuis le début de saison, moi je pense que c'est que ce soit pour les Kimpembe, Marquinhos ou Ramos, je pense qu'ils sont plus à l'aise tous les trois dans une défense à 4. Donc il y en a toujours un qui ne jouera pas.
Monsieur RMC, vous, si vous nous rejoignez, on débriefe ce match entre le PSG et 3. Juste, je t'interromps 2 secondes, Malcolm, juste pour bien rappeler où nous sommes et je te redonne la parole. PSG 3, le débrief avec la victoire des joueurs de la capitale, 4-3. On vous le rappelle également, à partir de 20h, vous pourrez nous rejoindre pour évoquer Marseille avec le match entre Strasbourg et Marseille et également pour évoquer les soucis. Et là, il y en a peut-être un peu plus côté Fosséen. Tiens, juste un petit message, notamment sur l'application RMC et l'onglet Direct Studio. Thomas qui nous dit: je suis alarmé de voir Paris se prendre 5 buts en une semaine par des équipes qui sont à leur portée. Ne serait-il pas indispensable de recruter un central dès le mercato hivernal? Tiens Malcolm, je te redonne la main, et est-ce que tu as un avis sur cet avis justement de Thomas?
Moi j'aimerais bien, et je suis actuellement, pour dire quel je t'aime le joueur, je suis là-dessus tous les jours sur lui, c'est Skriniar. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, j'ai vu l'interview du président de l'Inter qui disait oui, on aimerait bien le prolonger, mais on va voir. Mais pour l'instant, on est en octobre, bientôt novembre. Janvier arrive beaucoup bientôt, donc tant qu'il va prolonger, j'espère qu'il va venir à Paris. Et après, je sais aussi que Campos suit un central de Benfica, un petit jeune.
Antonio Silva.
Qui coûte déjà beaucoup d'argent. Ouais.
Oui, après ça coûte ça.
Il aurait fallu qu'il se réveille un tout petit peu après.
C'est ça. Non, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu qu'il réussisse à faire son coup avant, parce que déjà Antonio il a l'air d'être extrêmement surveillé par beaucoup de clubs pour le coup.
C'est pas faux, mais après Skriniar, si on peut avoir Skriniar cet hiver, ça va pas coûter aussi cher que ce que demandait l'Inter cet été, donc ça serait bien.
Bon, merci en tout cas Malcolm d'avoir été avec nous.
C'est la même chose.
Allez-y très rapidement, vas-y.
Vite rapidement, c'est que quand même si on a des problèmes défensifs, ce qui est plaisir, c'est qu'habituellement ce genre de match entre deux matchs des champions, c'est des matchs où Paris, quand même sous Pochettino et sous d'autres entraîneurs, soit on faisait match nul, soit on le perdait. Là, pour l'instant, on n'a pas encore tout perdu un seul. Et ça fait quand même plaisir, au final.
C'est vrai qu'au final, le Paris Saint-Germain conserve son invincibilité.
Je rejoins Melcom, parce que ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que bon, 35 points sur 39, bien sûr, c'est entre guillemets que 3, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais bon, là, c'est entre deux matchs de Ligue des Champions. Avoir autant de points, bon, c'est sûr qu'il y a il y a pas mal d'erreurs défensives, mais bon, ça reste quand même pour l'instant un très très bon début de saison de la part des Parisiens.
Ouais, merci encore une fois, Malcolm, d'avoir été avec nous sur RMC. On va continuer d'évoquer ce Paris Saint-Germain 3. N'hésitez pas encore une fois à venir avec nous sur le 32-16 pour évoquer cette rencontre, les réactions à venir, évidemment, au micro d'Aurélien Tiercien, dans l'heure ou à partir de 20h en fonction de la réception de ces réactions. Tiens, David, qui est avec nous également, supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir, David.
Bonsoir, salut à tous les auditeurs français.
Salut David.
Salut. Ton regard, toi, sur, alors non pas peut-être la défense, mais peut-être le verre à moitié plein, l'aspect offensif du PSG.
Oui, la défense, vous en avez déjà pas mal parlé depuis la fin du match, donc on va parler des aspects un peu plus positifs. Moi, j'ai bien aimé le geste que Messi et Neymar ont fait en laissant tirer Mbappé le penalty. Je pense qu'il commençait à avoir vraiment une solidarité, une vraie cohésion entre eux. Parce que normalement, c'est Neymar le tireur attitré.
T'es sûr que c'est Neymar, David ?
Ouais, pour le coup, c'est plus Mbappé quand même. Hein. Même si on a l'impression qu'on...
Ou alors tu as une info qu'on n'a pas. Ouais.
Ah, je suis pas d'accord, les gars. Moi, de ce que je vois, je regarde tous les matchs. D'habitude, c'est Neymar qui tire les pénalties. C'est le tireur attitré.
Alors ça a changé.
Ça a peut-être changé depuis quelques heures, mais en tout cas, on a bien senti quand même que Neymar laisse tirer le penalty à Mbappé parce qu'il a pas marqué.
En tout cas, le geste est... Ouais,
voilà, ouais. C'est ça. C'est vrai que c'est comme ça, au moins qu'on peut le visualiser. Et là où je te rejoins, c'est vrai que Messi avait marqué, Neymar avait marqué, Sébastien. Et au final, c'est vrai que Mbappé a eu des opportunités, il l'avait pas marqué. Et au moins, il n'y a pas eu de discussion de penalty gate comme on a pu l'évoquer par le passé.
Exactement.
Non, là, c'était clair, c'était le français forcément, Seb.
Et j'ai trouvé que Neymar et Messi étaient vraiment très très bien en jambes. Mbappé un petit peu moins de réussite sur la super action, la percée là de Neymar, et absolument, à la fin il finit en roulette,
c'est magnifique, ouais. Ça méritait le but là pour le coup.
Dommage qu'Mbappé l'ajuste pas, mais franchement je les ai bien sentis. Après offensivement on met 4 buts, donc on n'a pas de problème offensif. C'est vrai que défensivement c'est un peu fébrile. Moi personnellement j'aurais pas mis Kimpembe, je leur ai laissé encore un peu se rétablir. Et au milieu de terrain, j'ai bien aimé aussi l'entrée de Fabien Ruiz. Je trouve qu'il donne un bon impact. J'ai entendu toute la semaine, je vous entendais parler, dire que c'était un Mota bis. Et je trouve que je suis entièrement d'accord avec cette analyse.
David, justement, en parlant du milieu de terrain, moi, j'ai beaucoup apprécié la mobilité des trois. J'aime beaucoup Fabien Ruiz, hein, que je suis depuis un moment. Et je pense que c'est une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. En tout cas, de l'avoir dans l'effectif, c'est vraiment hyper intéressant. Mais j'ai beaucoup aimé la mobilité des trois, avec Verratti un petit peu plus en sentinelle, avec Vitinha et notamment Soler. Alors, bien sûr, il a marqué ce but, mais je trouvais que ça avait changé un petit peu par moment le profil du Paris Saint-Germain dans son animation, surtout face à une équipe hyper regroupée. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ?
Je te rejoins, et honnêtement, c'est vrai qu'on parle un peu toujours des côtés négatifs de Paris, mais marqué, parce qu'ils ont joué en 5-4-1-3. Marquer 4 buts à une équipe qui joue ultra défensif et qui nous prend que en compte, c'est super dur. Donc je trouve qu'on a vraiment été à la hauteur. Au niveau de la création, au niveau du jeu, au milieu, je trouve qu'on était très bien. Et c'est bien que Soler marque, comme tu disais tout à l'heure, parce que ça varie un peu les buteurs. C'est relou quand c'est tout le temps les mêmes gars qui marquent, surtout que en Ligue des Champions, les Neymar, Messi, Mbappé vont être pris au marquage individuel. Là, le fait qu'il y ait d'autres joueurs qui marquent, ça crée de la surprise.
Ouais, et puis de par sa course aussi, on l'a vu arriver de derrière. Là, c'est très compliqué de défendre comme ça. Et les Parisiens ont eu tendance, et ils ont eu raison un peu, à élargir justement pour essayer de créer des espaces. Et on a vu, hein, que ce soit le but de Soler ou le but de Neymar sur la passe de Messi, à chaque fois, ils sont arrivés de derrière. Absolument. Donc c'est un peu plus compliqué pour les défenses à les prendre.
Et dernière chose, je trouve que Neymar et Messi, c'est une hypothèse, hein, ça n'engage que moi, mais je trouve que bizarrement, à 2-3 mois de la Coupe du Monde, ils font quand même un super début de championnat. Donc est-ce que dans leur tête, ils se disent c'est peut-être notre dernière Coupe du Monde, pour Messi, je pense que c'est la dernière, Neymar peut-être l'avant-dernière. Est-ce qu'ils sont peut-être pas en train de se préparer pour arriver vraiment bien en forme? En tout cas, les deux, ils font un super début de saison. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus
c'est dans 3 semaines,
faire un début de saison comme ça. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de s'échauffer, ils vont arriver et ils vont faire peut-être une bonne grosse Coupe du Monde. Non, qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
C'est pas impossible, effectivement, pour Messi et Neymar. C'est vrai qu'ils s'apprêtent effectivement à réaliser quelque chose d'incroyable, notamment Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde au final, Seb. Hein. C'est
normalement,
vrai que...
ouais.
Voilà, en tout cas, c'est ce qui sous-entend, effectivement. Bon, on le verra en tout cas pour cette équipe d'Argentine et du Brésil. On en est encore un petit peu loin. Restons-nous sur notre rencontre de Ligue 1. Merci, David.
Je peux faire une petite dédicace?
Allez, rapidement, en deux secondes.
Ouais, petite dédicace, j'embrasse juste ma famille, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Et merci à ma femme aussi. Et je donne rendez-vous aux supporters italiens mardi ou mercredi, je ne sais plus c'est mercredi. Quand on joue. Soyez bien devant votre télé, les gars. On va vous envoyer en Europa League. Allez, je vous embrasse.
On verra ce qui se passera pour le Juventus PSG. On en est encore un peu loin, quoique. La Juve, on en parlera justement tout à l'heure, dans une grosse demi-heure à l'issue du match entre Lecce et la Juventus avec Johan Crochet. Il y aura sans doute des choses à dire sur cette équipe turinoise. Pour l'instant, 0-0 après 56 minutes. Et tiens, si vous êtes même supporter troyen, parce que Troyes a aussi réalisé de bien belles choses, ben n'hésitez pas à appeler le 32-16. N'hésitez pas à envoyer vos messages sur l'application RMC et l'onglet direct studio. On vous lira avec plaisir. On se retrouve dans 120 secondes. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Salim Bongali.
Et de retour sur RMC, 19h17, quelques minutes après la victoire du Paris Saint-Germain face à 3, 4 buts à 3, Neymar, Mbappé, Messi et Soler qui ont marqué pour le PSG. Mais c'est honteux de ma part de ne parler que du PSG. On pourrait quand même s'attarder quelques instants aussi sur 3, Seb, parce que ces Troyens, ils nous ont par séquence bluffé quand même ce soir.
Ouais, complètement. Bah déjà, quand tu viens marquer 3 buts au Paris Saint-Germain sur sa pelouse, alors que c'était la meilleure défense de notre Ligue 1, donc forcément, ça reste un exploit, même s'il n'y a pas victoire au bout. Mm-hmm. Et c'est vrai que, notamment Mama Valdé, hein, qui a fait la différence en marquant deux jolis buts. Ils avaient leur plan de jeu, facilité un petit peu par l'errance défensive du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que ça reste pas un exploit parce qu'ils ont perdu, mais ça reste plutôt une bonne copie pour cette équipe troyenne.
Baldé qui effectivement a marqué un doublé et Palaversa également le but du 4 buts à 3 dans les toutes dernières minutes. Tiens, Mamar, supporter troyen qui est avec nous au 32-16. Salut Mamar.
Alors, salut les gars. Salut,
alors 3, ok, il y a défaite, ok, et normalement on n'est pas là pour être heureux d'une défaite, mais quand il y a des défaites en cours, encourageant, c'en est une là pour le coup.
Tout à fait. Bah écoute, un très très bon match dans l'ensemble des Troyens, avec de l'envie, de l'abnégation. Et puis bon, on savait de toute façon tout à fait que Paris allait accélérer, on va dire grosso modo qu'ils allaient accélérer en deuxième mi-temps, quoi.
Cette équipe de Troyes, encore une fois, Baldé qui marque aussi rapidement, c'est vrai que. Il y avait une idée de jeu, quoi, Mamar. Au final, le PSG avait la balle et le 3 réussissait à partir en contre.
Ah oui, tout à fait. Bah, de toute façon, Baldé, en ce moment, il est en feu. Bon, même si certains matchs, il marquait pas, mais il est très, 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 très bon, quoi.
C'est vrai, Seb. Encore une fois, cette équipe de 3, l'idée de jeu était claire. Alors après, il faut réussir à l'assumer et les Troyens l'ont parfaitement fait.
Ouais, oui. Excuse-moi, Mamar. Oui, ils sont dans ce système-là. C'est vrai que bon, il y avait énormément de joueurs devant leur surface, mais c'était, comme j'ai dit, c'était le plan de jeu. En tout cas, pour ce match-là, on sait que c'est une équipe aussi qui aime bien ressortir le ballon. On l'a vu aussi par séquence. Il manquait Tardieu aussi, qui est normalement hyper intéressant, qui est un peu la rampe de lancement.
C'est la pièce maîtresse.
Exactement. Donc, il fallait faire sans. Mais c'est vrai que c'est pas anodin déjà dans l'état d'esprit de marquer 3 buts au Paris Saint-Germain. Quoi qu'il arrive, dans l'état d'esprit, ça peut être un match, entre guillemets, une défaite référence, mais un match référence pour la suite. Oui.
Parce que l'année dernière, je sais pas si tu avais vu au match retour, ils avaient fait quand même 2-2, alors que tout le monde pensait que Paris allait les écraser.
Je me souviens. Donc bon, après, encore une fois, moi, je pars du principe où quand on joue au Parc des Princes, notamment contre le PSG, c'est un petit peu le match de l'année.
Oui, c'est le match de l'année,
voilà, donc il y a un peu cette volonté d'en faire encore plus, mais, d'être plus solidaire.
Niveau plan de jeu, oui, c'est sûr que niveau plan de jeu, c'était pour la défense et puis avec les contres, soit de Mama, soit de Wilson ou de Bert, qui est très bon depuis le début de saison. C'était sûr que, on va dire, niveau jeu, c'était quasiment que en contre, alors que Paris, il suffit d'un éclair et boum, ça y est,
Ouais, bon, c'est pas le même talent sur le terrain. Après, il faut se dire aussi une chose, c'est qu'ils viennent de prendre un point donc face à Lorient qui fait un super début de saison. Là, ils sont pas passés très loin d'un exploit au Parc des Princes. Donc c'est le bon augure. Il faut surtout qu'ils terminent très bien et c'est là où les attend contre des équipes, on va dire, un peu à leur portée avant la trêve.
Et le terrain, c'est Auxerre. C'est 3 Auxerre. Voilà, c'est le derby, entre guillemets, en tout cas.
Oui, le derby, on va dire le vrai derby. C'est normalement, c'est 3 Reims, mais 3 Auxerre, oui, on va dire par rapport au kilométrage.
C'est ça.
C'est sûr que. Mais non, c'était un beau match. Après, je peux souligner la rentrée du nouveau, je ne sais plus comment il s'appelle, le Croate, qui a marqué le dernier but.
Pas la Versa.
Voilà, c'est son premier match avec l'équipe première et premier but. Donc là, c'est plus que je pense qu'il rentrera de plus en plus dans le plan de jeu de Bruno Alves.
C'est ce qu'on verra en tout cas pour cette équipe de 3, pour lui, pour les stacks qui est bien en tout cas. Allez, rapidement, Marin, dernier mot, très vite.
Alors non, c'est pour passer une dédicace. Après,
allez, très vite, vas-y.
Bon, voilà, à mon fils Liam et à ma fille Maëlys. Bon, pour les connaisseurs d'RMC, bon, que je connais certains de tes collègues qui les connaissent, donc voilà. Et puis à passer bonjour aussi à l'équipe troyenne, si on ne sait jamais s'ils écoutent sur le chemin du retour.
Et ils écoutent sûrement effectivement RMC. Merci à toi Mamar, supporter de 3. Après, certes cette défaite, mais défaite pas inintéressante en tout cas de l'Estac, 4 buts à 3 face au Paris Saint-Germain. Un peu plus tard dans l'intégral foot, vous aurez droit évidemment aux réactions des joueurs de la capitale au micro RMC d'Aurélien Tiercin. On vous l'a dit tout à l'heure aussi, vous pourrez être avec nous à partir de 20h au 32-16 pour évoquer l'autre gros match de Ligue 1 de cette soirée, le match entre Strasbourg et Marseille. On évoquera dans quelques minutes les clubs à l'étranger, notamment la Juventus qui va affronter le club du Paris Saint-Germain mercredi en Ligue des Champions. La Juve qui est toujours à 0-0 après 66 minutes à Lecce. Yoann Crochet sera avec nous. Et on va parler aussi de Coupe de France. Vous le savez, et je sais que Seb adore cette compétition, la Coupe de France, dont c'est le 7e tour ce week-end avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Et certains clubs de Ligue 2 qui sont tombés, je prends ma liste parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont tombés, avec Dijon qui s'est incliné à Saint-Privé-Saint-Hilaire, club de National 2 1-1 et une défaite au tir au but. Quevilly-Rouen qui s'est incliné à Aubervilliers, club de National 3 au tir au but également. Et puis Laval, club de Ligue 2 qui s'est incliné face à un club de Régional 1, le 6e échelon français, Orvault 1-1, et une défaite au tir au but. Et justement, tiens, on est avec le coach d'Orvault, Jérémy Allard. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir.
Franchement, le match est terminé il y a 2 heures à peu près. T'es comment là?
C'est bizarre. C'est bizarre. Euphorie, fierté, enfin tout se mélange là. Mais c'est plutôt un bon sentiment.
Juste, d'ailleurs, point géographie, Orvault, c'est où? Quoique Sébastien, sens qu'il a la réponse.
C'est,
hein.
C'est Nantes, hein. Enfin, c'est Orvault.
C'est 5 minutes de Nantes.
Voilà, on visualise bien comme ça géographiquement où on est. On l'a dit, le score 1-1 pour un club de Régional 1, donc le 6e échelon face à Laval, club de Ligue 2. C'est bête, mais comment ça se prépare un match de 7e tour de Coupe de France comme ça avec un tel écart?
Ça se prépare. Moi, j'avais fait le choix de pas forcément changer la routine de championnat parce que je voulais pas mettre une pression supplémentaire. Je voulais qu'on prépare avec nos principes de jeu, ne pas déroger à nos règles entre guillemets, ce qu'on a plutôt bien fait. Et on prépare à l'instinct, on prépare. J'avais pas misé sur faire multiples vidéos, analyser.
Toi, tu as vu Jérémy quand même, tu as vu des images, même si a priori il y avait pas mal de changements dans le 11 de départ du Stade Lavallois.
Ouais, forcément. Après, leur système de jeu n'avait pas changé. En plus, ils sont venus nous voir la semaine dernière en championnat à 10 minutes de chez eux, donc on savait que voilà, le match en championnat de samedi dernier était important. Parce que je souhaitais que mes garçons ne pensent pas que à la Coupe de France, mais aussi cachent quelques surprises. Et la surprise, ça a été notamment le choix de mon gardien de but aujourd'hui qui a été décisif.
Oui, décisif au tir au but, puisqu'il a arrêté 2 tirs au but, hein, c'est ça, 2 si je ne m'abuse.
Ouais, c'est ça. Après il n'a pas un arrêt à faire de la première mi-temps. On marque, je ne vais pas dire contre le cours du jeu, mais sur la seule action bien menée de notre part, et puis on se retrouve à 1-0 à la mi-temps. Donc voilà, après le but qu'on prend à la 38e de la deuxième mi-temps, il nous assomme un petit peu parce qu'ils n'avaient pas été plus dangereux que ça. Donc voilà, tout ce qu'on avait mis, tout le plan de jeu a été respecté à la lettre et on a été récompensé au tir au but, voilà, tout simplement.
Jérémy, on sait que ça puise beaucoup la Coupe de France. Il y a beaucoup d'effervescence forcément à travers cette compétition, surtout quand on est un club amateur. Je ne sais pas comment vous êtes en championnat, mais est-ce que tu souhaites t'en servir toi justement pour continuer à avoir une dynamique en championnat ou alors la retrouver, parce que je connais pas votre classement en R1 et si vous êtes bien ou pas. Comment tu comptes t'y prendre, sachant que le 8e tour va arriver là très assez rapidement vite,
ouais. Ouais, après en championnat c'est un peu faussé parce que on a deux matchs en retard, un avec la Coupe de France et un qui a été décalé à cause de la sécheresse et de l'état du terrain de Coulaine qui a joué la semaine d'après sur un terrain galette contre Cholet National. Donc c'est un peu faussé le championnat. On a fait que deux matchs de championnat.
Ah oui, d'accord.
Maintenant, c'est à nous de prendre match après match. Là, l'euphorie. Moi, mes joueurs lundi matin, ils vont tous reprendre le boulot. Donc voilà, on va se retrouver mardi. On va essayer de gérer l'état émotionnel, l'euphorie, tout ça. Mais bien sûr que le nuage Coupe de France va être important pour montrer aux garçons que ils en sont capables, que tactiquement on a fait vraiment du gros boulot aujourd'hui. Alors, même si on a passé, mes garçons ont été courageux et ont passé leur temps à peut-être défendre, mais voilà, on peut pas
bien défendre, c'est bien ça.
On peut pas faire autrement, on peut pas rivaliser autrement que être bon tactiquement. Donc voilà.
Et ça a été le cas, effectivement, avec cette performance dingue. Jérémy Allard, coach d'Orvault, club de Régional 1, la 6e division, qui a sorti Laval, club de Ligue 2 de Coupe de France. Une victoire au tir au but avec un 8e tour à venir prochainement. C'est aussi ça, RMC, les grands écarts. Le PSG évoqué il y a quelques minutes, la Coupe de France. Maintenant, dans un instant, on va évoquer le Real. Merci beaucoup, Jérémy Allard, en tout cas, d'avoir été avec nous. Félicitations,
Jérémy,
une nouvelle fois,
pour cette
qualif d'Orvault face à Laval. Je le disais, dans un instant, on va évoquer effectivement le Real et surtout un homme, Karim Benzema, une nouvelle fois forfait. Pardon, mais la Coupe du Monde, c'est dans 3 semaines. Oui, on en parle dans un instant.
RMC, Intégral Foot.
Salim Bongani.
19h32 sur RMC. On vous le rappelle, à partir de 20h, grand avant-match autour du match entre Strasbourg et Marseille. N'hésitez pas à solliciter Adrien au standard au 32-16 pour évoquer l'OM, les choix de Tudor, les limites peut-être de cette équipe océane, les inquiétudes peut-être autour du Racing aussi, une seule victoire en 12 rencontres. N'hésitez pas, si vous voulez même encore une fois parler du Paris Saint-Germain, pourquoi pas, on le fera, le PSG qui s'est imposé difficilement face au club de Troyes, 4-3 justement. Mais avant d'évoquer cela, on va faire une sorte de mini drôle de dame, j'ai bien dit mini puisque les drôles de dame, c'est votre rendez-vous du lundi entre 20h et 22h avec notre drôle de dame espagnole, évidemment, Fred Hermels. Hola Fred.
Mini, je sais pas comment le prendre.
Non, tu me prends bien.
Hola chicos.
Mais si, tu peux me prendre bien. Parce
mini, parce que je suis petit ou parce que je suis 1 sur 4?
Du tout, voilà. Parce qu'il y aura Yoann Crochet juste après, donc c'est 2 sur 4 et on prend les meilleurs. Voilà, Paulo Breitner et Julien Laurent se te prennent bien, là, tu vois. Pour le coup, si
d'accord, vous êtes pas bien. Hola chicos. Et ravi de retrouver Seb. Ça fait un moment qu'on s'était pas parlé.
Et pour le coup, pas forcément pour parler des matchs qui ont lieu en ce moment, mais plutôt pour évoquer une inquiétude. Nous sommes à une dizaine de jours de la liste de l'équipe de France qui sera annoncée par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde le 9 novembre prochain. Il y a beaucoup de blessés, on le sait, à tous les postes, des incertitudes. Et il y en a une, on a l'impression aujourd'hui, Frédéric, j'ai envie de dire et reprendre le gimmick, alors pour le coup pour des circonstances beaucoup plus graves, sordides à l'époque, Roger Gicquel, la France a peur, mais j'ai envie de dire, oui, la France pourrait avoir peur avec Lucas Karim Benzema.
Alors c'est le troisième match, demain le Real Madrid rencontre Gérone, c'est le troisième match que Benzema va manquer. Il devrait aussi manquer le prochain match de Ligue des Champions contre le Celtic Glasgow mercredi soir. On va pas dire que c'est des matchs très compliqués. Moi, ce qu'on me dit au club aujourd'hui, alors le club avait fait un communiqué il y a quelques jours pour dire que Benzema souffrait d'une fatigue musculaire. Mm-hmm. Donc on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Bref, Karim Benzema ne se sent pas très à l'aise avec une cuisse. Moi, ce qu'on me dit en interne au Real Madrid cet après-midi, c'est que c'est quelque chose de mineur.
Alors juste voilà. pour qu'on comprenne bien, Fred, et je vais me tourner un instant juste vers Sébastien qui les a connus, peut-être les fatigues musculaires. C'est bête, pardon pour cette question, mais c'est quoi une fatigue musculaire en foot, Sébastien?
On n'est pas au stade de lésion. C'est là en fait où il faut être assez précis. C'est-à-dire que il peut y avoir une sorte de petite élongation. Là, si c'est que fatigue, forcément, on va essayer de pas tirer trop sur le muscle justement. Et il va y avoir un temps d'arrêt mis en place, un protocole de mis en place avec le staff médical. Mm-hmm. Mais c'est pas quelque chose où ça saigne.
T'en as déjà eu toi des fatigues musculaires?
Oui, bien sûr, ça peut arriver. Mais le problème aujourd'hui, et peut-être que Fred va nous le dire aussi, c'est que même si lui a les informations, c'est que on donne les informations un peu au compte-goutte, où on donne un petit peu ce qu'on veut. Quand fatigue musculaire, ça peut comprendre différents stades de lésions. Et si c'est mineur, on peut être dans un stade 1.
Mais tu sais, pardon, je t'interromps et juste, je vais justement poser cette question à Fred, parce que Fred, le Real qui communique sur, et j'ai envie de dire les grands clubs, les très grands clubs qui communiquent en mode X est blessé, enfin pas blessé, il a une fatigue musculaire, c'est habituel ça au Real ?
C'est pas très habituel, mais enfin, ce qui compte, c'est moi ce qu'on me dit de sources très sûres, c'est que Karim ne veut prendre aucun risque.
D'accord.
Voilà, c'est qu'il y a, et que personne au club veut prendre de risque, c'est-à-dire qu'il y a, comme l'a très bien expliqué Seb, une petite gêne, voilà. Et Benzema connaît très bien son corps. C'est toujours quelqu'un qui a très bien, qui a toujours su comment était son corps. C'est-à-dire que il n'a jamais pris de risques inutiles. Et peut-être qu'en forçant un tout petit peu, il y aurait le risque de déchirure musculaire. Donc, et là, déchirure musculaire à trois mois d'un mondial. Vous voyez ce qui s'est passé la semaine dernière avec Raphaël Varane. Mm-hmm. Donc voilà. Donc c'est, il se sent pas totalement à l'aise avec sa cuisse. Donc Benzema et les médecins du Real Madrid préfèrent qu'il ne joue pas le match.
Alors Fred, voilà. je vais te reposer à ce moment-là la question. Tu le dis, il y a ces matchs donc qui s'enchaînent où Karim Benzema est absent. Sans doute le match de Ligue des Champions qui est avec un enjeu moindre, même s'il faudra confirmer la première place face au Celtic. Voilà. Donc quand je t'entends, au final, j'ai l'impression que c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France de voir Karim Benzema souffler en quelque sorte.
Oui, enfin... je sais pas si, enfin, pour le Real Madrid, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Voilà, c'est-à-dire que il y a rien de grave, quoi. Voilà.
Ouais. C'est ça.
Y a absolument rien de grave, et que on sait très bien que les joueurs sont les premiers à savoir ce qui se passe dans leur corps et notamment au niveau de leur cuisse. Et là, Benzema sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas à 100% et qu'il ne va pas prendre de risque.
Ouais, ils sont en intelligence, Fred. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un moment charnière pour le Real. C'est-à-dire qu'ils ont fait le job, notamment en Ligue des Champions. Bien sûr que tout le monde préfère avoir Karim Benzema sur le terrain.
Ah oui.
Mais d'abord, bon, il y a la Coupe du Monde. Et puis aussi, il y a une deuxième partie de saison. Oui. Il a fait 10 matchs, bon, après, il me semble, Fred, depuis le début de saison.
Oui, il a eu sa blessure musculaire. Il a fait une petite rechute. Là, il y a de nouveau cette fatigue musculaire. Mais moi, ce qu'on me raconte au Real aussi, c'est qu'on ne peut plus traiter Karim Benzema de la même manière qu'il y a deux ans. Parce que pendant cinq ans, il avait ces longues périodes où il pouvait se reposer.
Là, il repart avec la sélection
internationale.
Là, il y avait les voyages, il y avait les matchs. Il était au centre d'entraînement tranquille. Bon, c'était dur psychologiquement pour lui, mais physiquement, il pouvait se reposer. Là, aujourd'hui, on doit gérer, d'un point de vue médical et sportif, Karim Benzema d'une manière un peu différente qu'on l'a fait ces dernières années. Et ça, c'est tout à fait logique. Donc, puis il y a des années qui passent aussi. Donc, Karim Benzema aujourd'hui n'est pas blessé. Donc ça, c'est sûr, on m'a garanti que ce communiqué fatigue musculaire ne révélait aucun truc secret ou que ça allait pas. Non, non, c'est vraiment mineur. C'est simplement une grosse précaution qui est prise du côté de Karim Benzema et du club.
Tu l'as dit, Fred, une gestion du cas Karim Benzema. Justement, Benzema, j'ai envie de dire, on le gère pas comme tous les autres joueurs du Real, justement. Il est géré de manière particulière, pour le coup.
Comment gérer Modric, c'est-à-dire des joueurs qui ont plus de 30 ans et qui ont beaucoup, beaucoup joué. Je pense que... Puis après, Carlo Ancelotti, moi, comme je le connais, il ne prend jamais aucun risque avec un joueur.
Et puis Fred, il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que quand il y a ce type de blessures ou de petites inquiétudes, les joueurs ne restent pas dans leur canapé. Il faut que les gens comprennent aussi qu'ils travaillent.
Non,
c'est pour ça aussi qu'il y a encore plus à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire, et notamment au niveau cardio, pour travailler le haut du corps. Je suis sûr que là, si c'est juste une fatigue musculaire, tu pourrais presque même aller trottiner.
Enfin,
on est vraiment dans une préparation.
Il a trottiné. Il a trottiné. Il s'est entraîné à part ce matin. Il a fait des.
Moi, Fred, pour moi, c'est toujours bien d'être sur le terrain, mais quand tu as l'âge de Karim Benzema, on voit que c'est un joueur qui a à peu près en moyenne à 45 matchs à peu près par saison, qui a toujours enchaîné. à 3 semaines de la Coupe du Monde, franchement, c'est pas bien grave. Au contraire, c'est mieux qu'il se repose, ou en tout cas qu'il se prépare, parce qu'il va pas manquer de rythme. Et au contraire, ça va lui ramener peut-être un peu plus de fraîcheur pour la Coupe du Monde.
Mais en plus, Karim Benzema est quelqu'un qui travaille énormément seul chez lui. Il suffit de regarder ses stories Instagram. Ça se voit. Enfin, il travaille pendant les vacances, les jours de repos, etc. Il est là avec ses machines et sa muscu chez lui, quoi. Donc, non, bien entendu qu'il n'est pas en train de regarder tranquillement devant le canapé.
Oui, c'est incomparable avec. Alors, je parle pas du travail. Je parle d'un cas Pogba ou voilà des joueurs qui sont écartés depuis longtemps et où on se dit ils vont peut-être revenir pour la Coupe du Monde. Mm-hmm. Où là, ça me paraît plus compliqué.
N'hésitez
pas. Le rythme de Benzema va pas être affecté par le rythme de compétition, va pas être affecté, même si d'aventure il ne jouait pas d'ici à la Coupe du Monde. Hein.
Le 32-16, n'hésitez pas si vous voulez évoquer justement le cas du Français Karim Benzema. On le rappelle une nouvelle fois forfait, même si on l'entend à travers les propos de Fred Hermel très bien informé. A priori, c'est juste une précaution et pas davantage.
Ah, c'est pas a priori, c'est
une précaution.
C'est une précaution. Ah non, mais ça, c'est-à-dire que moi, je vous parle de sources.
Mais oui.
Incontestable.
Mm-hmm. 32-16, encore une fois, pour évoquer Karim Benzema. Et on vous le rappelle aussi à partir de 20h. Vous pouvez également nous retrouver dans cette émission pour évoquer Strasbourg-Marseille. Aussi, le match de Ligue 1 qui aura lieu à partir de 21h. Évoquer tous les soucis autour d'Igor Tudor. Les choix, notamment, qui sont contestés du technicien. Ou encore les inquiétudes, peut-être, que vous avez, supporters de Strasbourg, autour du Racing. Juste encore un mot, Fred. On l'a dit, donc, ton inquiétude, elle n'est pas là, puisque tu es bien informé, tu l'as bien expliqué. Aujourd'hui, c'est une fatigue et pas autre chose. Karim Benzema aussi, dont tu nous le fais comprendre, lui est serein. Lui est vraiment tranquille dans sa tête, quoi.
Non, il y a pas d'inquiétude. Il y a pas d'inquiétude ni chez Karim Benzema ni au club. Mais après, c'est vrai que tous les joueurs. Là, par exemple, on a eu une inquiétude aujourd'hui pour Morata. Mm-hmm. Morata qui espère jouer la Coupe du Monde et lors du match, la défaite de l'Atlético à Cadix, il est sorti avec sûrement une blessure musculaire.
D'ailleurs, je me permets, alors une petite digression, je te piège Fred et je m'en excuse, puisqu'on doit évidemment évoquer Karim Benzema, mais j'en profite de ton propos sur Alvaro Morata. Hier, il y a eu cette préliste de 55 joueurs qui a été annoncée, en tout cas qui a fuité en Espagne, de la part de Luis Enrique, et David De Gea ne fait pas partie de cette liste des 55 au final, de ces 5 gardiens, donc il n'ira pas à la Coupe du Monde. Non. C'est vrai que ça, c'est vu de France, c'est surprenant, vu d'Angleterre aussi, peut-être pas vu d'Espagne, Fred.
Non, vu d'Espagne, c'est tout à fait logique parce qu'il n'était déjà pas là au dernier Euro, hein, David De Gea. Donc,
c'est pas une surprise, quoi.
C'est-à-dire qu'il a été soutenu énormément par Luis Enrique au tout début, alors que ça n'est pas trop. Et David De Gea, il a dû avoir quelque chose entre les deux hommes quand même parce que c'est quand même étrange, quand même. Hein.
Ouais, dans les cinq, ça paraît quand même.
Ça paraît.
Voilà, même si c'est un poste à part.
Voilà, quand il met une croix sur quelqu'un, c'est un peu compliqué. Le fait qu'il n'y ait pas, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est vrai qu'il est très bon avec Chelsea dernièrement. Alors aujourd'hui, ils ont perdu, je crois, non ?
Oui, ils ont perdu. D'ailleurs, Kepa est sorti à la mi-temps. Donc on ne sait pas si c'est un choix, puisque Chelsea était mené 3-0, ou si c'est une blessure. Et là, pour le coup, on aura l'occasion d'en reparler, Fred.
Ouais, après, dans les prélistes, vous savez, il y a Sergio Ramos qui est dans la préliste aussi. Hein.
Oui,
c'est vrai. Et tout le monde sait qu'il n'ira pas. Hein. Il faudrait vraiment une hécatombe d'ici à la Coupe du Monde pour que Ramos soit sélectionné.
Juste
c'est dommage.
S'il n'y va pas, c'est parce que Luis Enrique n'est pas fan ou parce que voilà, c'est ça.
Ah non, parce qu'il en veut pas. Parce que Luis Enrique va être la seule star de l'équipe. C'est tout. Enfin,
un problème d'égo.
Toutes les fortes têtes, tous les gens qui peuvent un peu hausser le ton dans un vestiaire ne sont pas du goût de Luis Enrique. Après, c'est un choix. Hein, moi, je le respecte. Hein, mais Sergio Ramos, qui lui rêve de jouer la Coupe du Monde, qui, avec ce qu'il montre à Paris, peut être sélectionné. Après, il est possible que Luis Enrique estime qu'un Sergio Ramos non titulaire à une Coupe du Monde dans un groupe ne serait peut-être pas bénéfique pour le groupe. Mais ça, je ne suis pas...
Après, je pense que sur ce type de joueurs, de très grands joueurs, c'est sûr qu'il faut absolument se mettre d'accord avant le début de la compétition. Ça peut, on se rappelle de Thierry Henry en 2010, quand il est parti en Afrique du Sud.
Sébastien, Ramos, au final, on arrive à mieux le gérer au PSG. En tout cas, ils se font peut-être plus dans ce collectif je parle d'un ego qu'il arrive à restreindre que peut-être en équipe des Svensson.
Après, ouais, bon, c'est différent d'être en club et d'être en sélection, surtout quand on en est quasiment le capitaine, même si il avait pas le brassard de la sélection espagnole. Après,
Si, il était capitaine.
Oui, donc à partir de là, dès l'instant où tu prends Sergio Ramos, c'est pour le mettre sur le terrain. Et si,
Et si
Luis Enrique estime qu'il doit pas être sur le terrain, c'est vrai que ça peut être un cas difficile à gérer. Et sur ces
après, c'est un grand pro, hein, sincèrement. Ouais. Mais je pense que si Luis Enrique avait voulu discuter avec Ramos et avait voulu l'emmener, moi, je connais très bien Ramos depuis très longtemps. Je pense que c'est quelqu'un qui était capable d'être très utile, même depuis le banc.
Bon.
Mais voilà, Luis Enrique a ce caractère-là. Je ne suis pas le premier fan de Luis Enrique, vous l'avez compris.
Ah bon?
Mais c'est quelqu'un qui veut dominer, qui veut être le patron. Et c'est un choix, et c'est le choix du président de la fédération d'avoir ce genre de sélectionneur.
Bon, en tout cas, on verra ce qui se passe pour Sergio Ramos avec cette sélection. Et surtout, tu étais avec nous pour évoquer Karim Benzema. Donc, on le rappelle, cette fatigue musculaire. Certes, il est forfait, il le sera peut-être en Ligue des Champions en milieu de semaine, mais pas d'inquiétude concernant le numéro 9.
Voilà. On ne cache rien.
Exactement. Voilà. Pas de lésion dure, compliquée. Non, il est juste en repos et rien d'autre pour être en forme et pour la suite des rencontres du Real, mais également, surtout, pour les rencontres de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Fred, merci à toi. On te retrouve évidemment lundi pour les drôles de dames.
Et ce soir, déjà dans l'after, hein, pour parler d'un très intéressant Valence-Barça qui, dans l'histoire, est un match en général où il y a beaucoup de buts. Mm-hmm. Bon, ça fait un moment que Valence
est le PSG 3. Son...
voilà, bah exactement. Ouais, exactement, voilà.
C'est ça. Et puis lundi...
et ça fait un moment que Valence et Barça n'offrent plus de grands spectacles, mais historiquement, c'est toujours un match très intéressant à voir.
Et lundi, tu pourras parler évidemment dans les drôles de dames des clubs espagnols qui ne sont pas en Ligue des Champions par le Real, évidemment. Oui, la meilleure
c'est
Liga
la
n'est pas la Ligue espagnole. On le sait bien, voilà, Fred. Hein.
N'est plus.
Voilà, exactement.
La différence entre pas et plus.
Merci à toi Fred, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir accueilli sur RMC dans un instant. Et on vous le rappelle, à partir de 20h, on parle de Marseille, Strasbourg-Marseille. Beaucoup de choses à évoquer au 32-16. Mais avant ça, dans quelques instants, dans 128 secondes pour être précis, on évoque la Juventus, prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions. La Juve qui est en train de mener 1-0 face à Lecce. On en parle avec notre autre drôle de dame italienne, Yoann Crochet.
RMC Intégral Foot.
Salim Bongali.
19h48 sur RMC. On vous le rappelle, à partir de 20h, grand avant-match autour du Strasbourg-Marseille. N'hésitez pas à prendre vos places auprès d'Adrien Valentin au 32-16 pour vous exprimer, notamment dès 20h. On aura les compos d'Igor Tudor sur les choix justement du technicien ou encore les limites de cette équipe phocéenne ou encore le Racing qui inquiète, une seule victoire en 12 journées cette saison en Ligue 1. On l'a évoqué aussi, on va parler dans un instant de la Juventus, la Juve qui en ce moment joue face à les Nous sommes dans le temps additionnel, la Juve qui mène 1-0. La Juve, prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Qu'attend de cette Juventus? On en parlera avec Yoann Crochet. Yoann qu'on accueille d'ailleurs. Salut Yo.
Salut Salim, salut Sébastien, salut, bonjour à toutes et à tous.
Et avant d'évoquer cette Juventus, puisque nous sommes dans le temps additionnel, profitons-en aussi, puisque l'équipe qui fait mal, l'équipe qui fait peur en Serie A, c'est bel et bien le Napoli, qui s'est encore une nouvelle fois baladé aujourd'hui. La victime du jour, expiatoire Sassuolo, une victoire 4-0. Kvaratskhelia qui a été encore énorme. Bref, le Napoli régale.
Oui, très sincèrement, c'est dur de pas prendre de plaisir devant les matchs du Napoli cette saison. C'est un vrai rendez-vous maintenant tous les week-ends et même en milieu de semaine quand il y a la Coupe d'Europe, parce que à ce bilan absolument dingue déjà en Serie A, il y a aussi le bilan incroyable en Ligue des Champions avec 5 victoires en 5 matchs. C'est quand même une saison incroyable pour le moment, un début de saison en tout cas assez incroyable. Et honnêtement, ce match-là, je vais pas dire qu'il est bien payé, mais même Naples qui est dans une bonne journée, qui crée beaucoup d'occasions et qui est très létal en première mi-temps, qui met ses occasions, ses grosses occasions, ils ont eu des difficultés à gérer les transitions de Sassuolo et Sassuolo finalement a eu autant de grosses occasions de marquer que Naples en première mi-temps et pourtant à la mi-temps il y a 3-0. Donc on peut se dire bah finalement ce match il est peut-être pas si simple que le 4-0 l'annonce. Alors Sassuolo en deuxième mi-temps a été beaucoup plus dans le dur et ont eu du mal à gérer parce que Naples est entré dans un moment de gestion et quand Naples a le ballon c'est très sincèrement pour aller le récupérer dans les pieds des joueurs comme Lobotka, comme Zielinski, comme Kvaratskhelia, comme Mario Rui, même en défense Di Lorenzo, etc. C'est très très compliqué, mais avant ça, avant même cette deuxième mi-temps, le 3-0 est finalement quand même assez bien payé parce que Pinamonti, parce que l'Orienté aussi, qui a été expulsé en fin de match, bah ils ont eu des très très grosses occasions, très sincèrement. Donc Mais ce qui est plaisant, c'est de se dire, cette équipe-là, quoi qu'il arrive, elle ouvre le jeu, en fait. Et même à 3-0, elle va chercher à aller mettre le quatrième. À 4-0, il cherche à aller mettre le cinquième. Et cette mentalité-là, finalement, elle est payante à la fois en Serie A, mais aussi en Coupe d'Europe. Cette exigence-là qu'ils mettent au quotidien, à travers les entraînements, à travers les petits jeux, Luciano Spalletti disait, moi, j'ai même plus besoin de leur réclamer deux touches de balle dans les exercices à l'entraînement, parce qu'ils le font immédiatement. Ils ont même plus besoin de moi pour le faire. Et cette exigence-là, finalement, elle paye le week-end, elle paye en milieu de semaine, et c'est évidemment tout le travail de l'entraîneur et des joueurs.
Le premier, le leader de cette Serie A, donc le Napoli, qui a une nouvelle fois gagné 10 victoires de nul, victoire 4-0 aujourd'hui face à Sassuolo, avec notamment donc un triplé de Victor Osimhen. On est dans le temps additionnel de ce Lecce Juventus, Johan, la Juve qui mène 1-0, la Juve qui galère déjà face à Lecce. Enfin, j'y déjà, enfin, c'est comme depuis le début de saison, en fait.
Oui, voilà, très, très sincèrement, ça allume, en fait. Moi, maintenant, j'ai pris le parti de ne plus regarder que le résultat du match. C'est-à-dire que je regarde les matchs, mais tout commentaire sur la qualité de jeu de la Juve est tout simplement superflu maintenant. Parce que ça ne changera pas, parce qu'on connaît Massimiliano Allegri, parce que ça ne sert à rien d'avoir des attentes qui n'arriveront jamais dans les faits. Donc, ça ne sert plus à rien de se dire « ça joue mal ». Oui, on le sait. Partons du principe que la Juve joue très mal. Et c'est encore ce qu'on voit ce week-end. Très sincèrement, là, ce soir, contre Lecce, qui est quand même pas une équipe de très grande envergure, qui galère depuis le début de la saison, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur, qui est 17e au classement. Bon, ben voilà, ça joue extrêmement mal. Il a fallu une inspiration d'un jeune gamin, Fagioli.
Magnifique le but d'ailleurs.
Ouais, le but est somptueux, mais là encore.
Et la victoire, je t'interromps, victoire officielle. Voilà.
Exactement. 1-0
pour la Juve, là, à l'instant.
Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une cascade de blessures pour que les jeunes ont leur chance à la Juve. Mais ça on en revient aussi à l'entraîneur et au fait qu'il déteste travailler avec les jeunes et qu'il préfère les envoyer en série B, en série C, un an, deux ans, trois ans pour s'aguerrir.
Juste Sébastien, c'est vrai que cette Juventus, et Johan l'a très bien décrite, qui est déprimante par séquence, quand on voit également le match face à Benfica, alors certes un seul but d'écart, mais Benfica était tellement au-dessus de la Juve cette semaine, la victoire des Portugais 4-3, on se dit que le PSG, avec ce qu'il sait faire offensivement face à cette équipe défensivement de la Juve, ça ne peut que dérouler, non?
Bah, disons qu'elle fait plus peur cette Juve, et puis en plus dans l'animation, dans le projet de jeu, s'il y en a un, d'Allegri, c'est vrai qu'il se passe rien. Finalement, il peut y avoir un exploit de temps en temps. Ils sont déjà à 10 points du Napoli. Alors, moi la question, toi, Johan, t'es beaucoup beaucoup mieux informé. Est-ce que c'est par rapport à l'aspect financier que Allegri est toujours le coach de la Juve ou pas? Parce que sinon, franchement, je vois pas ce qu'il lui trouve.
Voilà, si c'était aujourd'hui sur la qualité du jeu, bah, il serait plus là depuis longtemps. Si c'était sur les résultats, bah, il serait plus là depuis longtemps. Parce que je rappelle que on est face à un entraîneur qui explique depuis toujours qu'il y a que les résultats qui comptent. Bon, bah, le résultat de l'année dernière, c'est qu'il n'y a aucun trophée gagné. Voilà.
Ça veut tout dire. Ouais.
Voilà, ça veut tout dire. Donc, effectivement, tu as raison. C'est en partie, en très grande partie, on ne peut pas l'affirmer à 100% parce que c'est difficile. Il y a sans doute d'autres liens, et je pense notamment au lien d'amitié qu'il y a entre le président de la Juve qui est allé chercher Allegri il y a un an et demi maintenant pour le remettre à la tête de l'équipe. Mais effectivement, quand on a un contrat à 7 millions d'euros net par an, et donc en brut, ça, on est à peu près à 10 millions d'euros, qui reste 2 ans et demi de contrat, qui a aussi le staff qui a été élargi en plus à la demande d'Allegri, c'est très très cher. Mais encore une fois, moi, ce discours-là, pour moi, il est très peu compréhensible. Parce que combien ça a coûté la Juve de ne pas accéder en 8e de finale? Combien ça peut coûter à la Juve de pas finir dans les 4 premiers et de rater la Ligue des Champions l'année prochaine?
Beaucoup plus que de
licencier.
Exactement.
Il faut avoir le courage, on va dire, de passer à l'action.
C'est ça, c'est de la gestion à la petite semaine, et c'est un peu le problème de la Juve depuis bien longtemps. C'est que on rigolait là sur la stratégie de jeu, pardon, de Massimiliano Allegri. Mais on peut parler ou de la stratégie économico-sportive aussi de la part des dirigeants.
Juste un dernier mot, Johan, très rapide. Évidemment, la Juve, il y a ce Lecce Juve d'ailleurs, d'abord, mais tu sens a priori que les grands journaux, la Gazzetta, le Corriere, etc., vont forcément s'attarder en longueur sur le Juve PSG à venir et vont sans doute être très critiques envers cette Juventus dans les prochains jours quand même.
Attention, la semaine prochaine, on parle évidemment du Juve PSG.
Et il y a Juve Inter.
Il y a Juve Inter à la fin de la semaine. Donc là, on a
deux
rendez-vous très importants. Alors, très importants, malheureusement, contre le Paris Saint-Germain, ça ne peut pas donner autre chose qu'accès à l'Europa League. Mais les journaux sont déjà maintenant, ça y est, c'est terminé. L'état de grâce d'Allegri, la protection quasi systématique de ses amis dans l'univers médiatique, c'est terminé. Là, il est très critiqué, à raison, parce que il suffit simplement d'ouvrir les yeux pour voir ce qu'il se passe à la Juve en ce moment. Et justement, le problème, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose.
Ouais, même si la Juve a réussi à gagner un match. Si, la Juve a gagné, promis, sur la pelouse de Lecce, 1-0 Fagioli, le petit jeune qui a marqué un but absolument magnifique qui permet à la Juve de remonter à la 6e place. La Juve qui, on vous le rappelle, affrontera mercredi le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi 21h de ce Juve PSG à suivre à la radio sur RMC et à la télé sur RMC Sport. Grand merci à toi, Yoann Crochet, d'avoir été avec nous. Yoann, on te retrouve. Salut. Évidemment, lundi pour les drôles de dames, 20h, 22h pour revenir sur toute la journée en Serie A et évoquer évidemment de nouveau la Juve. Dans un instant, une mini page de pub et juste après, on pourra démarrer notre avant-match Strasbourg-Marseille avec beaucoup de choses car... Oui, on va évoquer l'OM avec les choix de Tudor, avec les inquiétudes peut-être des supporters phocéens, avec Strasbourg aussi, peut-être des inquiétudes autour du Racing, sans doute, même une seule victoire en 12 journées, sans doute qu'il y a des inquiétudes. Et puis tiens, on reviendra aussi sur Paris Saint-Germain, je vous le rappelle, le PSG, qui aujourd'hui s'est imposé face à l'Estac, 4 buts à 3. Les réactions au micro RMC d'Aurélien Tiercin, ce PSG, avant donc d'affronter la Juve. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
Salut Ben Gali. Vous pouvez suivre l'After Foot sur RMC. 20h01 sur RMC. Oui, vous êtes en plein dans l'Intégral Foot qui a démarré depuis une heure déjà. Et dans la première heure, elle a été chargée. Hein, beaucoup de choses évoquées avec un débrief autour du Paris Saint-Germain 3. D'ailleurs, le PSG, on en parlera dans quelques instants également. On a parlé aussi de Coupe de France. Et oui, on est comme ça sur RMC avec le 16e tour avec des clubs de Ligue 2 qui ont été éliminés. On a évoqué la Juventus, prochain adversaire du PSG qui inquiète tant. On a évoqué le Real et Karim Benzema, certes forfait pour le match de ce week-end, mais des nouvelles plutôt rassurantes hein, qui ont été évoquées par Fred Hermel. Et maintenant, désormais, place à notre grand match de Ligue 1 du soir, Strasbourg-Marseille, qui va démarrer dans moins d'une heure. Strasbourg-Marseille avec des Phocéens en question. Les choix de Tudor, évidemment, interrogés, questionnés. Et également des inquiétudes autour de cette formation. Inquiétudes aussi autour du Racing. Et je vous l'ai dit, on parlera du Paris Saint-Germain dans quelques minutes avec les réactions après ce PSG 3 au micro RMC d'Aurélien Tiercin. Vous êtes en plein dans l'Intégral Foot et vous êtes bien sur RMC. Toujours avec Sébastien Piocelle, toujours, ou plutôt aussi, avec Lionel Charbonnier. Bonsoir Lionel.
Salut Salim, salut Seb, salut à tous.
Comment vas-tu Lionel?
Bah nickel, content de vous rejoindre. Ouais, je suis bien. Je viens de voir un match avec des buts, 10 buts en 2 matchs, ça promet.
Eh oui, effectivement, ce PSG 3 qui effectivement succédait, tu as raison de le préciser comme cela, au match entre Lens et Toulouse hier avec une victoire du Racing 3.
Et c'est ma première avec Seb. Hein.
Ouais, c'est vrai. Je vais le noter.
D'ailleurs. Voilà, exactement. Tu peux le noter, effectivement. T'as bien raison. Ouais. Effectivement, hier, donc, Lens qui s'est imposé face au TFC 3-0. On le disait surtout, donc, Strasbourg-Marseille, c'est dans moins d'une heure à la Méno. Et les chanceux, Timothée Mémon et Sébastien Ruffet sont avec nous en direct de la Méno. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir Salim, bonsoir Seb, bonsoir Lio et bonsoir à tous.
Bonsoir tout le monde, bonsoir les mecs. Monsieur Piocelle, j'aime beaucoup votre prénom.
Ah moi aussi, ouais, je suis fan.
Oui, et c'est vrai que je vais bien préciser, Sébastien Ruffet, pour qu'on ne se trompe pas à qui je pose la question à chaque fois. Seb, justement, Sébastien Ruffet, juste avant les compos, tiens, toi qui connais la Méno par cœur, qui connais cette ville, qui connais ce stade par cœur, Strasbourg, on a souvent parlé du Marseille de l'Est, au final, de cette ambiance, etc. Ah, ouais. Là, on en est où à une heure du match? Est-ce que l'ambiance, elle monte vraiment? Où l'inquiétude fait que c'est plus calme, plus posé. On est comment là?
Écoute, ça monte doucement. Il y avait pas mal de bouchons hein, pour arriver. Donc pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait à plein. Mais ça va être à guichet fermé encore une fois. 7e fois de la saison. 14e fois consécutive à cheval sur les deux saisons. Il y a toujours cette ferveur. Pour l'instant, malgré voilà, la situation sportive un petit peu compliquée, les supporters sont bien là. Ils répondent présents. Ils poussent leur équipe. Y compris la dernière fois contre Lille, même à 3-0 pour les Lillois. Eh bien, les Strasbourgeois poussaient encore le cop, continuaient de chanter. Combien de temps ça va durer? Alors, ça, voilà, il faut quand même falloir marquer des points. Et puis, un petit peu en championnat pour les joueurs, mais en tout cas pour l'instant il y a toujours cette belle ferveur. On s'arrache les places dans la semaine, c'était une vraie bataille pour trouver des billets pour venir parce que tout le monde voulait voir ce match entre Strasbourg et Marseille. Voilà, donc donc ça ne faiblit pas. En plus, on a quoi, un petit 18-19 degrés. Hein, ben, la chaleur qui est sur la France n'épargne pas l'Alsace, hein, bien évidemment. Donc voilà, un temps tout à fait agréable pour venir voir un petit match de foot sympa. Maintenant, les buvettes marchent plutôt bien. Donc on est à la bière, on est au tarte flambée avant le match. Ambiance toujours très conviviale et chaleureuse à la Méno. C'est aussi ça le plaisir de venir dans ce stade, même s'il est un peu vétuste, même si les sièges sont pas parfaits. Mais c'est cette ambiance, cet environnement qui respire. Voilà, c'est le foot à l'ancienne. C'est ce qu'on aime avec la Méno. Quoi.
Alcool, évidemment, avec modération. Tiens, juste jour. Avant les compositions d'équipe avec vous, messieurs. Juste Sébastien Piocelle, tu as connu ce la Méno aussi qui a joué hein, avec Nantes.
Descendu avec
Bastia
là-bas.
Et oui, désolé. Donc tu l'as vraiment connu. Mais c'est vrai que c'est une ambiance particulière quand même. Ce stade.
Oui, et puis ils ont un super public. Et puis, sur l'histoire récente avec les problèmes financiers qu'il y a pu avoir, la descente notamment jusqu'en National 3, c'est vrai qu'ils ont recréé quelque chose. Bien sûr qu'on ne peut pas effacer le passé du Racing Club de Strasbourg, mais avec les remontées successives, l'ère Thierry Loret, le bon travail de Marc Keller, tout ça fait qu'ils mériteraient presque, alors cette saison ça va être compliqué, mais de retrouver l'Europe, tellement c'est un club qui sent le football, un public qui sent le football. Et encore plus, quand tu reçois l'Olympique de Marseille, ça ressemble à un gros choc pour les Strasbourgeois.
Tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, quand je voyais Alexander Wenzel dans la cage avec les compétitions européennes.
Moi, c'était Lionel Charbonnier. Moi, il faut pas Strasbourg.
Pour Strasbourg. Mais... Ouais, non, moi, je parle de Strasbourg.
Mais tu sais, et ça, c'est le malheur pour la Méno, c'est que moi aussi, j'ai connu ce stade. Alors,
il a gagné avec la GIA, évidemment, là-bas.
Moi, j'ai dû prendre quelques tôles aussi.
Bon, allez, les compos, messieurs, de ce Strasbourg-Marseille de ce soir. On va commencer par Strasbourg, tiens, messieurs.
Ouais, alors, il y avait pas mal d'interrogations. Hein. Julien Stéphane l'avait dit, même encore hier soir, il se posait encore pas mal de questions d'interrogation parce que la semaine dernière, ceux qui sortaient du banc avaient fait le boulot. C'est vrai qu'il a du mal à trouver un petit peu l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'il nous a réservé, Matsels? Bien évidemment, dans le but, hein, en termes de pourcentage, c'est le troisième meilleur gardien de Ligue 1 sur le pourcentage d'arrêt, hein, bien sûr. La défense avec Le Marchand, qui est un petit peu incertain, mais qui tient sa place à côté de Niamsi et Perrin, l'ancien Marseillais pour la défense à 3. Le flanc gauche, occupé par Thomas Delaine. Ronald Pierre-Gabriel prendra, lui, le flanc droit à la place de Colin Dagba. Ça fait partie de ces joueurs qui sont entrés la semaine dernière à Toulouse et qui ont plutôt fait une bonne entrée. Donc Pierre-Gabriel, titulaire à droite. Le milieu de terrain, pareil, Aoulou avait fait une bonne entrée. Et bien, il est titulaire à côté de Bellegarde. Thomasson sera à la baguette. Et devant, on aura Diallo et Gamero. Et on soulignera également sur le banc le retour de Ludovic Ajorc, absent depuis maintenant 7 semaines. Et un coup de coude reçu au thorax, hein, contre Clermont. C'était ici à la Méno. Et ça fait plaisir aussi de revoir Ludovic Ajorc dans le groupe du Racing.
Et la combo marseillaise désormais, Timothée.
La composition de l'Olympique de Marseille, ce sera Paul Lopez dans la cage. Une défense à 3 ou à 5, c'est selon. Avec Balerdi dans l'axe, Chancel Bemba à sa droite, Kolasinac sur son côté gauche. Dans les pistons, on va retrouver Jonathan Klaus et Issa Kabore. À la récupération, Jordan Veretout et Matteo Guendouzi. Et puis devant, ce sera Senzi Gunder, le Turc, Dimitri Payet, le Réunionnais, en soutien de Bemba Dieng, qui se retrouve bel et bien titulaire. C'était pressenti. Première titularisation pour Bemba Dieng, lui qui avait été clairement mis à la cave, qui était sur le point d'être transféré à Nice l'été dernier. Il s'en est fallu d'un petit problème détecté lors de la visite médicale au genou pour que Bemba Dieng ne perde pas. Finalement, il est resté à l'OM, il s'est investi, il a réussi à gagner la confiance d'Igor Tudor. Première titularisation aujourd'hui.
Julie Deroux et Daniel Torres qui nous régale à la réalisation avec les petites musiques sous les compositions d'équipe. Tiens, Lionel Charbonnier. Lionel, la compo marseillaise, et Timothée l'évoquait, les choix d'Igor Tudor, ils étaient sentis ces dernières heures et ils ont été confirmés avec ce trio offensif qui change.
Ouais, exactement. Alors c'est Veretout, Guendouzi en milieu,
et
Payet devant.
Payet, Under et Bemba Dieng.
Ah, Under.
Exactement. Okay. Donc c'est pour ça que
Oui, alors. Moi c'est pas. Alors offensivement, on va voir comment ça va se passer. Bien sûr, il laisse on laisse respirer devant
Sanchez.
Voilà, on laisse respirer Sanchez. Maintenant, bon, on va voir comment sont surtout les têtes, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais alors c'est un petit problème pour l'entraîneur marseillais, parce que les joueurs, quand ils ont leur chance, ils n'hésitent pas à leur chance, ils n'y arrivent pas. Moi c'est quelque chose que j'ai connu dans un club, et notamment Glasgow Rangers, où l'entraîneur, après avoir tout fait pour mon club et même me péter les genoux et mettre un an pour revenir, il m'a laissé complètement à la rue tout seul. Et puis un jour, il a eu besoin de moi. Et ce jour-là, il était dans une vraie merde. Et il m'a dit, maintenant, il faut que tu joues contre Parme. Parce que là, on a la qualif, on a la finale pour la Champions League, pour se qualifier pour la Champions League. J'ai fait le taf. Honnêtement, j'ai fait le taf et on s'est qualifié, on a battu, on a éliminé Parme qui venait d'être champion d'Europe en finale contre l'OM à l'époque. Mais j'avais qu'une envie, honnêtement. C'était bien faire pour mes coéquipiers, bien faire pour mon public, mais j'avais certainement pas envie de me dépouiller pour ce mec qui m'avait malmené pendant un an. Tu comprends pourquoi je dis
absolument.
Ça? Parce que là, il y a des mecs qui ont été mis à la rue complète, qui ont été abandonnés, des mecs qui avaient prouvé, qui avaient fait des choses pour le club, et on les a maltraités. Et maintenant qu'on est un petit peu dans la mouise, l'entraîneur leur dit, allez les mecs, maintenant à vous de jouer, montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Tant. C'est pas comme ça le management. C'est pas comme ça, c'est pas que comme ça, c'est trop facile. Ça se mérite la confiance, l'entraîneur doit mériter une confiance. Et je pense que son coaching est tributaire de son management de début de saison. On en a souvent parlé avec Flo Germain, on a dit attention à ce mode de coaching, parce que si un jour les résultats ne sont pas là, ça pourrait être compliqué pour l'entraîneur marseillais. Et là aujourd'hui on y est. J'espère que les joueurs vont faire le taf, vont faire tout ce qu'ils veulent, et gagner pour leur club, pour tout ça, et pour eux-mêmes et pour leurs copains. Mais ils garderont dans leur tête ce qui s'est passé en début de saison.
On vous le rappelle, 32-16 pour évoquer notamment les choix de Tudor, avec, on vous le rappelle, Under, Payet et Bamba Dieng qui sont titulaires. Vos messages également sur l'application RMC, l'onglet direct studio. Tiens, Edouard qui est avec nous au 32-16. Salut Edouard.
Oui, bonsoir.
Pour le coup, tu n'es pas forcément d'accord avec Lionel Charbonnier, sous-entendu. Toi, tu trouves que c'est plutôt positif ce que fait Tudor malgré tout.
Ouais. J'ai une réelle empathie, parce qu'il a vécu des choses assez difficiles en tant que supporter marseillais. Quand on était au premier match, il a enchaîné les sifflets qui venaient des virages. On s'y attendait, et puis finalement c'est tombé. Donc c'est vrai que je l'ai soutenu, parce que c'est quand même l'entraîneur qui a été choisi par un président, Pablo Longoria, qui nous a démontré par A plus B qu'au lieu d'être un président marketing comme l'était son prédécesseur, c'est un vrai président footeux. C'est un vrai président qui parle de football. Il l'a choisi en toute connaissance de cause. Donc je me suis mis dans la foulée de Monsieur Longoria et je me suis dit, je vais le soutenir. Le fait est que j'étais le seul.
J'étais comme toi oui. Là-dessus, hein, au départ.
Ouais, c'est vrai, mais parce que
je l'ai soutenu au départ aussi.
Et c'est vrai, tu as raison. Il avait besoin de soutien, parce que clairement, il est arrivé dans un championnat qui
complet.
Pas. Il est arrivé avec une équipe qui était un cran au-dessus de celle qu'il avait en Italie. Donc forcément, il avait besoin de soutien. Et puis je pense que comme il avait le soutien de Pablo Longoria, qui lui a laissé le temps aussi, avec une vraie défense au niveau des médias, il a pris sa défense, et puis il a mené de front aussi cette espèce de soutien médiatique. Donc pour ce coup-là, je trouve qu'il y a eu un tapis rouge à l'arrivée. Et les supporters dont je fais partie ont sifflé ce mec qui, pour moi, n'avait encore rien fait. On a vu au début de saison, je pense qu'il fallait rembarrer les sifflets et laisser la place. On lui a laissé la place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en vient à ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont forcément un petit peu controversés.
Ouais.
Et je l'entends bien. Il n'empêche que, je pense que... Alors le vrai coup d'arrêt, c'était Ajaccio. Clairement, Ajaccio, il s'est passé ce qui s'est passé. Et là, on s'est tous dit, mince. Parce que clairement, pour nous, c'est tout dans la poche.
Edouard, je t'interromps juste parce que je sais que Seb Piocel, il veut réagir justement et à tes propos, à ceux de Lionel tout à l'heure aussi.
Non, oui, pardon.
Après, c'est sûr que c'est jamais évident d'être entraîneur. Dans le management, t'es obligé de faire des choix. Il est pas lui du tout dans la calinothérapie, on va dire. C'est quelqu'un qui a ses idées comme chaque entraîneur, qui en déroge pas. On l'a vu et on va le revoir ce soir de par rapport à son système et même par rapport à l'animation. Mm-hmm. Après, quand ça va bien, en général, on a envie de laisser les mêmes joueurs. Mais on peut se rappeler de certains matchs aussi où l'OM a gagné aussi sur un fil. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est pas tant remettre des joueurs qui ont été mis de côté sur l'aspect mental. Bien sûr, je pense que on parlait surtout de Payet. Enfin, il parlait surtout de Payet, Lionel. Mm-hmm. Et c'est vrai que
Dieng et Under n'ont pas le même statut, le même vécu.
Et Under a quand même un peu plus de temps de jeu. Moi, ce qui m'inquiète le plus,
c'est clairement.
Ouais, non, mais attends, excuse-moi, je termine. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est sur l'aspect physique, en fait. Parce que c'est compliqué de demander à des joueurs qui jouent jamais d'être performants comme ça du jour au lendemain. On leur met sur le terrain contre des équipes qui vont jouer avec le couteau entre les dents parce qu'ils doivent absolument gagner ce match-là. Ils sont motivés parce que c'est l'OM en face.
Absolument.
Et il va y avoir beaucoup
d'autant plus que tu les alignes les trois, Seb. Exactement. Tu les alignes les trois qui sont en manque physique. C'est-à-dire que t'en mets un avec d'autres qui ont un peu plus de temps de jeu, ok. Mais quand tu changes trois comme ça d'un coup qui ont ce déficit physique, tu te dis c'est trois qui manquent de rythme, c'est trois. Il y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi.
Et moi je trouve qu'il tire beaucoup sur la corde avec certains. Bon, là, Tavares est remplaçant ce soir, mais c'est le genre de joueurs qui peuvent être intéressants quand ils sont très bien physiquement. Mais on l'a vu sur les derniers matchs, les gars ils sont émoussés et finalement ils sont pas bons.
Et on l'a compris, il y a beaucoup d'interrogations en tout cas autour de cette équipe. Juste en 5 secondes, Edouard, ton prono pour ce soir.
Écoute, merci. Alors déjà, je pense que ça va être une victoire de l'OM. Très honnêtement, je suis d'accord avec vous sur le sujet de Under, Payet et Dieng. Très clairement, ils vont jouer avec une certaine pression.
Ouais.
Néanmoins, dans le coaching de Tudor, je pense que c'est bien aussi de les remobiliser.
Il était temps.
Voilà,
je dis une victoire de l'OM et j'annonce une victoire. Je vais être honnête, je vais dire un 2-1. Et je vais me lancer un petit peu. Je pense que Payet va remettre un but. On l'a vu, sur son centième but, c'était contre Ajaccio et ça n'a pas été une victoire totale.
On est d'accord.
Et je pense que très sincèrement, j'aime bien l'OM, mais pour tout vous dire, j'habite Paris, mais je vais pas vous dire où j'habite parce que ça risque de s'entendre.
C'est pas le moment, là, effectivement, t'as raison.
Mais c'est pas facile de vivre ce que je vis, mais en tout cas, je suis très heureux et j'annonce un 2-1 ce soir.
Bon, c'est ce qu'on verra en tout cas pour l'Olympique de Marseille. On vous le rappelle, Strasbourg-Marseille à vivre à partir de 21h sur RMC. Merci à toi, Edouard, d'avoir été avec nous sur RMC. On va continuer d'évoquer l'OM dans quelques minutes, mais également avec Lionel, avec Sébastien Piocel. On va aussi revenir sur Paris Saint-Germain. Le PSG s'est imposé 4-3 aujourd'hui face au club de l'Aube. Ça a été difficile. Les réactions au micro de Aurélien Tiersens sur RMC dans un instant.
RMC Intégral Foot.
Salim Bongali.
C'est mieux avec le micro ouvert. 20h18 sur RMC à 42 minutes de la rencontre de Ligue 1 entre Strasbourg et Marseille. Quelques heures après la victoire du PSG face à l'Estac, 4-3. On retrouvera dans quelques instants Timothée Mémon et Sébastien Ruffet en direct de la Méno, toujours avec Sébastien Piocel, toujours avec Lionel Charbonnier et Aurélien Tiersens qui nous rejoint du Parc des Princes. Salut Aurélien.
Salut les amis, salut à tous.
Tu as commenté 7 buts, t'étais bien cet après-midi.
Salut Aurélien. Quasiment plus que depuis le début de saison. Beaucoup de 0-0, 1-1, là on s'est régalé, franchement.
Et donc, en tout cas, il y a eu beaucoup d'informations. On l'a évoqué tout à l'heure avec Sébastien. On l'évoquera dans un instant aussi avec Lionel, son regard sur cette partie. Mais toi, tu y étais à la conf de presse aussi. Qu'est-ce qu'on peut en retenir des propos, notamment de Christophe Galtier, tiens?
Il retient forcément la belle forme offensive du Paris Saint-Germain. Il avait dit qu'avec les trois devant, Mbappé, Messi, Neymar, qui recherchaient la meilleure animation possible. Et ce soir, il a été servi. Ils ont été très dangereux. D'ailleurs, il a associé à ces trois-là Carlos Soler, qui a marqué le but de l'égalisation à un partout et puis qui a obtenu le pénalty du quatrième but. Donc, il a insisté sur la belle animation offensive. Mais à côté de ça, il a pesté contre un déséquilibre permanent de son équipe avec une défense à
bien
quatre
évidemment.
Qu'il faut travailler. Puisque Lionel, ils sont passés de 5 à 4 et il y avait trop d'espace selon lui avec les latéraux qui montaient trop haut. Juan Bernat à gauche, Nordi Mukiele, il laissait trop d'espace dans leur dos. Donc il y a eu des espaces à utiliser pour les Troyens. Bruno Herles d'ailleurs en a parlé, c'est là-dessus qu'il a insisté. On peut écouter Christophe Galtier d'ailleurs sur cette maladresse défensive et sur ses buts encaissés. Il parle de toute la semaine d'ailleurs face au Maccabi Haïfa et face à 3.
On va travailler, on a pris 3 buts ce soir, c'est plus que ce que nous avions pris depuis le début de la saison en championnat. Nous avons pris 5 buts dans la semaine, c'est vraiment beaucoup trop. Certes, on en a marqué 11, et évidemment que nous allons travailler, évidemment que je vais en parler avec mes joueurs, mais on va le travailler, on va le corriger, parce que avec la qualité offensive que nous avons, on doit s'interdire de donner la possibilité à l'adversaire d'espérer. Et dans ce sens-là, il y a des positions, il y a des équilibres très stricts. Et il faudra une extrême rigueur, une grande exigence aussi sur un plan de la réflexion pour ne pas renouveler ce genre d'erreur.
Oui, on l'entend Lionel, pour le coup, Christophe Galtier, il est mécontent au final de cette semaine.
Bien sûr. Il a raison, il a parfaitement raison. Et moi, j'ai parfaitement regardé les deux matchs de cette défense et je sais pas honnêtement si c'est c'est pas que je ne sais pas. Pour moi, ce n'est pas la défense à 4 comme j'ai pu l'entendre aussi à la télé. Ce n'est pas la défense à 4 qu'il faut remettre en question. C'est l'équilibre du milieu devant cette défense à 4. Et il y a un mec qui est extraordinaire et je le disais à la sortie du match en Coupe d'Europe, c'est Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, avec cette défense à 4, pour moi, il est inamovible en sentinelle devant la défense. J'ai regardé tout le long ses déplacements, son intelligence de jeu, son volume de jeu, ses interventions, ses compensations. Justement, Galette en parlait, lorsque les latéraux montent, qui prend le... Aujourd'hui, il n'y avait personne. Verratti n'y était pas lorsqu'il était en 6. Ruiz, à chaque fois, si c'est du côté droit, c'est Ruiz qui devient latéral droit. Si c'est du côté gauche, comme par hasard t'en as un, c'est Ruiz qui vient à gauche. Pour ressortir les ballons, celui dans le domaine offensif, c'est Ruiz qui oriente les ballons et qui les sort. Ce mec-là, dans la défense à 4, il est, pour moi, inamovible et c'est lui qui doit être là. C'est la solution, c'est l'équilibre de toute cette défense et de tout ce système en 4-3-3, c'est l'équilibre du PSG.
Moi, je rejoins Lionel parce que j'adore Fabian Ruiz, mais bon, même de Naples, donc je savais qu'il fallait un petit peu de temps, mais que c'est un joueur. De grande qualité et puis de grande intelligence.
Meilleur milieu, hein, Seb, hein, t'as vu, meilleur milieu à Naples en Italie. Hein.
Ouais, complètement. Mais moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est que j'ai aimé aussi dans l'animation offensive ce milieu à 3 de ce soir. Beaucoup de mobilité, ça change un petit peu. Par contre, oui, on laisse des espaces, mais sur les buts qui sont pris par le Paris Saint-Germain, ça manque aussi d'agressivité. Ça, on en a parlé tout à l'heure.
Alors, derrière, c'est comment il s'appelle c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi, hein, c'est ce que je disais sur un tweet. Il y a cet équilibre-là. Alors après, quand t'es à 4 mètres dans les 16 mètres au marquage, c'est inadmissible. Ouais, Kimpembe, c'est inadmissible. Ben là, inadmissible ce qu'il a fait.
On voit au moment du centre, ils sont 4 parisiens pour un joueur troyen, donc en l'occurrence Mama Baldé. Et c'est vrai que Kimpembe, qui est plus proche de l'attaquant troyen, il est à 4 mètres. C'est impossible. À ce niveau-là, c'est
dans les 16 mètres, c'est pas possible.
Justement, Aurélien Tiersin au Parc des Princes, est-ce qu'on en a peut-être parlé en conférence de presse de Presnel Kimpembe?
Oui, absolument. Bah, c'était son match de rentrée. Il a manqué quasiment 7 semaines de compétition. La dernière fois qu'il était titulaire, c'était contre Brest en début septembre. Il est rentré quelques minutes à la fin du match contre le Maccabi Haïfa. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a trouvé un petit peu... c'était compliqué, le match de Presnel Kimpembe, un petit peu en retard. Alors après, il n'a pas forcément été aidé justement par ce déséquilibre permanent de l'équipe. D'ailleurs, pour prolonger la discussion de Lionel et Seb avec Fabian Ruiz, aujourd'hui, Carlos Soler était dans ce milieu à 3 et Christophe Galtier l'a un petit peu pointé du doigt aussi. Justement, il n'arrivait pas à combler le déséquilibre de Nordi Mukiele. Ben oui. Les deux ne se sont pas bien compris. Pour revenir à Presnel Kimpembe, là, on peut écouter Christophe Galtier. Il en a parlé. Ça reste évidemment un joueur très important et porter le brassard de capitaine encore ce soir. Et il excuse un petit peu la prestation mi-figue mi-raisin de Presnel Kimpembe.
Pour Kim, c'était un match de rentrée. Ça faisait 7 semaines, je crois, qu'il n'avait pas joué. Il avait participé évidemment à la victoire de mardi, mais là, il a démarré un match. Évidemment, il a des problèmes de repères, des problèmes de confiance aussi dans ses courses. Il a eu une blessure assez importante sur un plan musculaire. C'est un match de reprise dans un contexte où notre défense n'a pas été énormément aidée.
Juste, je pose une question, tiens, Sébastien Lionel, il est de retour dans une défense à 2. Quand je dis défense à 2, forcément dans une défense où tu as plus de responsabilités à ce moment-là. Il n'a pas tous ses repères.
Oui, il a plus de repères, moi je trouve.
Ah
oui, bah, complètement, ils ont quasiment... excuse-moi, juste... Bon là, ils ont joué à 3 depuis le début de la saison, il n'y a pas de souci, mais il a toujours joué à 4, et je pense que d'abord, les 3 joueurs axiaux aujourd'hui...
Alors, je vais reposer ma question, parce que quand tu es à 3, justement, tu as... J'ai envie de dire plus de soutien, plus d'aide, justement, avec tes deux défenseurs centraux qui sont à côté de toi.
Mais des fois, trop d'aide, ça tue l'aide. C'est-à-dire qu'à 3 pour un attaquant, des fois, t'as les 3 qui se regardent. Chacun pense que c'est l'autre d'à côté qui va le faire. Et justement, personne ne fait le taf. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Seb. Il a raison.
L'importance du milieu de terrain, Lionel, aussi. Mm-hmm. Là, de toute façon, même s'il joue qu'à 2, c'est là aussi, tout à l'heure, tu parlais très justement de Fabian Ruiz. C'est là, en termes d'équilibre, d'avoir cette sentinelle, ce joueur-là qui est intelligent pour compenser et pour aller se mettre dans les brèches.
Parce que c'est ça, parce que le souci, excuse-moi Seb, peut-être que ça va t'aider. Le souci l'année dernière, lorsque Kimpembe par exemple jouait déjà à 4 et que c'était Kimpembe qui devait aller couvrir complètement sur le côté gauche le déséquilibre défensif lorsque le latéral montait. À chaque fois on disait Kimpembe il a la rue. Mais tu te rends compte que déjà quand t'es milieu de terrain, que t'es à 3, que tu dois couvrir sur 70 mètres, les mecs n'y arrivent pas très souvent pendant tout le match. Ils n'y arrivent jamais. Il y avait un grand milieu de terrain qui a été comme ça, c'était celui du Milan AC avec Pirlo, Gattuso et Seedorf. Le reste, t'avales la trompette à un moment donné. Mais imagine à deux, lorsque c'est l'axial gauche qui doit aller couper carrément de l'autre côté. Alors on disait Kimpembe, il est encore la rue. Ouais, mais non, mais c'était trop compliqué. C'était pas ça l'animation qu'il fallait faire. Et c'est là où Fabien Ruiz, justement, est très bon. Aujourd'hui, Kimpembe, on l'a jamais vu aller couper là-bas, s'excentrer sur un côté. C'est pas son taf à lui d'aller s'excentrer. Et si jamais il doit le faire, eh ben, tu verras, parce que ça a été fait aussi, Fabien Ruiz l'a très bien fait. Si jamais un des axios va sur le côté, eh ben, tu verras qu'à chaque fois, c'est Fabien Ruiz qui vient et qui se met dans la défense axiale. Et ça, c'est une grosse intelligence de jeu, mais par contre, son problème défensif, son problème de marquage, et c'est pour ça que moi je l'ai pas évoqué à Kimpembe, pour moi c'est un manque de concentration, un manque de compétition qui va revenir parce que c'est un poste, et Seb a parfaitement raison, c'est un poste qui connaît beaucoup mieux à 4, enfin à 2 axios qu'à 3.
Bon, au moins Salmen Delcar, votre position est très claire, Seb et Lionel, on verra en tout cas ce qui se passera aussi mercredi face à la Juve, qui pour jouer dans cette défense à 4, donc Ramos, Kimpembe ou en l'occurrence Marquinhos.
Marquinhos sûr.
A priori Marquinhos et peut-être Ramos, peut-être qu'on va préserver le français Presnel Kimpembe, assure évidemment dans les prochaines heures sur RMC. Merci Aurélien Tiercin en direct du Parc des Princes après cette victoire 4 buts à 3 avec Lionel, avec Sepp Piocel, mais également avec Timothée Mémont et Sébastien Ruffet. Dans un instant, on évoque de nouveau l'Olympique de Marseille avec peut-être les limites. Oui, limites, puisque ces dernières semaines, l'OM a été inquiétant, a été décevant, a perdu, même si Igor Tudor n'est pas pessimiste, au final est négatif concernant les dernières performances faussées de ce Strasbourg-Marseille. On en parle dans 2 minutes 30 à peine sur RMC. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
Salim Bengali.
Dans une demi-heure, Strasbourg-Marseille, dans le cadre de cette 13e journée à vivre sur RMC. On vous le rappelle, RMC, seule radio à vous proposer les 10 rencontres de Ligue 1. Et oui, rien que ça. Et n'oubliez pas d'ailleurs que ce soit pour Marseille dans des minutes à venir ou encore pour Strasbourg, n'hésitez pas à composer le 32-16. Adrien vous accueille pour évoquer ces deux équipes. Avant d'évoquer nos discussions et notamment peut-être les limites de cette équipe phocéenne avec Sébastien, avec Lionel, on va retrouver Sébastien Ruffet et Timothée Mémont. Juste un rappel des compos, messieurs, vous évoquez à 20h.
Et on va commencer avec la composition du Racing Club de Strasbourg. Allez, c'est parti. Mats Sels dans les buts, bien évidemment. La défense à 3 avec le Marchand sur le côté gauche, on va dire. Lucas Perrin à droite, Niamsi dans l'axe. Le flanc gauche, le piston gauche, ce sera Thomas Delaine. Le piston droit, Ronald Pierre-Gabriel. En milieu de terrain, on va retrouver Aoulou, Bellegarde et Thomasson. Et le duo d'attaque, ce sera Abi Diallo avec Kevin Gamero.
Et du côté de l'Olympique de Marseille, Paul Lopez est dans la cage avec Sead Kolasinac, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba devant lui. Sur le côté droit en piston, Issa Kabor. Et sur le côté gauche, Jonathan Klaus avec Jordan Veretout et Matteo Guendouzi. Sandy Gunder et Dimitri Payet seront en soutien de Bemba Dieng dans un système de jeu qui devrait être un 3-4-2-1.
Allez, ce match qui démarre donc dans une demi-heure à peine. Dans quelques instants, on vous le rappelle, on évoque le Racing aussi. N'hésitez pas au 32-16 à vouloir évoquer le club de Julien Stéphan. Mais juste avant l'Olympique de Marseille. Et tiens, avant de nous interroger au sujet de l'OM, on va écouter Igor Tudor. Igor Tudor, qui en conférence de presse hier a été interrogé sur de nombreuses thématiques et notamment sur les manques ou pas de l'Olympique de Marseille. Et écoutez-le bien.
J'en ai parlé avec les joueurs. Il ne faut pas accepter de bien jouer et de perdre les matchs. L'équipe doit faire mieux sur les détails, faire un peu plus sur le terrain. On ne peut pas se satisfaire des bonnes performances sans gagner.
Merci Igor. Effectivement, on ne doit pas se satisfaire de ce genre de performance et donc de ne pas gagner. Enfin, il a dit, Lionel, tiens, je vais me tourner d'abord vers toi. Il dit, il ne faut pas se satisfaire des bonnes performances. Ah oui, parfois il y a eu des bonnes performances, un peu contre Lens.
Contre PSG. C'était bien.
Voilà, c'était pas mal. Par exemple, la dernière contre Francfort, c'était quand même beaucoup moins bien, Lionel. Et lui, on a l'impression qu'il ne voit que le verre à moitié plein, enfin le verre au dixième plein, j'ai envie de dire.
Ben, disons qu'il y a deux aspects. Il y en a surtout un, moi, qui m'interpelle. C'est, alors, les actions, elles y sont. Il y a, voilà, t'aurais pu jouer le match contre Lens, je crois, où il y a eu pléthore d'occasions. Un truc de fou. Mais le souci. Alors l'entraîneur doit créer les occasions. Lui l'entraîneur, c'est de mettre un plan de jeu en place pour récupérer la balle à un endroit, le point A, pour l'amener à un point B pour pouvoir marquer les buts. Mais le souci, c'est que dans tes points B, il faut que ce soit les bonnes personnes aux bons endroits. Et il ne peut pas reprocher aujourd'hui à ses joueurs l'investissement de ses joueurs. Il ne peut pas reprocher le dynamisme, tout, le cœur qu'ils mettent dedans. Ils mouillent le maillot, ils font tout. Mais par contre, ce qu'on peut reprocher, moi, quand je vois des actions qui se terminent avec Sanchez qui centre pour Klose qui reprend, quelque part, il y a un souci. Ça, c'est aussi à lui de l'organiser. Parce que si t'as pléthore d'occasions et que tu mets pas les bonnes... C'est comme une entreprise quand elle est mal gérée. Tu peux avoir les meilleurs pilotes dans l'avion. Si le pilote, tu le mets au test de l'air et que l'hôtesse de l'air, elle sait pas piloter, tu vas te cracher. Mais là, c'est la même chose.
Lionel,
les joueurs
tu as raison,
ne sont pas au bon endroit.
On lui a posé la question hier à Igor Tudor sur le rôle d'Alexis Sanchez qui décroche énormément et qui finalement est rarement dans la surface de réparation. On lui a demandé s'il espérait le voir plus haut. Mais hier, il était, pour revenir à ce que disait Salim il y a quelques instants...
Il a botté en touche.
Non, il était dans une communication 100% positive. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alexis est un joueur extraordinaire. Il joue au bon endroit. Il n'y a pas de souci. C'est quand même surprenant parce que je rappelle quand même qu'en début de saison, pour avoir fait un certain nombre de conférences de presse d'Igor Tudor, en début de saison, quand l'OM gagnait tous ses matchs, tout était perfectible et rien n'allait. Par contre, depuis que l'OM ne gagne plus avec Igor Tudor, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Et
il a même dit hier que les deux derniers matchs de l'Olympique de Marseille étaient les deux meilleurs que l'OM ait fait ces derniers mois.
Bah voilà.
Juste monsieur, je vais rebondir sur tes propos, Timothée. Vincent, tu as bien rappelé aussi le contexte des conférences de presse ces dernières semaines et depuis le début de saison au final d'Igor Tudor. Sébastien, pardon, mais quand un coach est un inconnu, des coachs dans tous les clubs dans lesquels tu es passé, ça va alors qu'il y a défaite ou ça va pas alors qu'il y a victoire. Enfin, le joueur, il est pas idiot, il sait ce qui va, ce qui va pas. Il y a pas besoin que le coach aille mentir au final devant la presse, non ?
Oui, mais l'entraîneur, il voit les matchs comme nous. Il les voit même mieux. Enfin,
Il y a souci.
Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'OM reste sur 4 défaites en 5 matchs. J'ai envie de dire, peu importe le contenu, les fameuses défaites encourageantes, ça va un temps, mais on est à l'OM. Et par rapport au début de saison quasi parfait des Marseillais déjà en championnat, le fait qu'ils aient inversé la tendance en Ligue des Champions avec cette double victoire face au Sporting, c'est sûr que là, moi je trouve que cette équipe, dans la mentalité, il n'y a pas de souci. Les joueurs, à l'image d'Alexis Sanchez, font énormément d'efforts, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont cramés. Et justement, quand on est cramé, et ça Lionel le sait, quand on est cramé, on fait plus les bons choix après. On fait plus les bons choix. On va louper un geste, que ce soit offensif ou défensif. Ce qui veut dire que dans ces moments-là, clés d'un match, tu vas pas faire le bon geste. Tu vas louper ta passe. Tu vas faire le mauvais choix. Défensivement, tu vas faire une erreur. Tu vas pas faire la bonne relance. Tu vas avoir le mauvais placement. Et moi, je trouve qu'ils font beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Ils courent énormément, et par moment. Ils courent dans le vide. Et une dernière chose, je trouve aussi qu'ils deviennent prévisibles. L'OM devient prévisible.
Ça, c'est important, je pense, ce que tu dis, Seb, parce que je pense que maintenant, ça y est, on a fait le tour. C'est-à-dire que l'équipe, il ne s'est pas donné une roue de secours en cas de. Avec son effectif, même dans le même effectif, mais dans une autre configuration. C'est-à-dire que parfois, moi, j'aimerais bien voir Sanchez. J'ai regardé depuis, il a pas mal d'actions d'Alexis Sanchez. Quand il était très, très, très performant, déjà, il était à deux. Il avait tout le temps un mec à côté de lui. Il jouait de la même manière, mais il y avait quelqu'un qui était complémentaire à côté de lui. Celui-là, il manque considérablement.
Je te laisse le Lionel,
je prends l'exemple de Gianpiero Gasperini, qui est un adepte du 3-4-3, 3-4-1-2, 3-4-2-1. C'est clair, souvent ça bouge pas derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'animation offensive, c'est des fois un 10, deux attaquants. Des fois, c'est 2-10, un attaquant. Des fois, c'est un autre profil qui joue dans le
même
couloir.
Match.
Et le truc, c'est qu'on s'attend à tout, en fait. On s'attend toujours aux mêmes choses, en fait, à un moment donné, avec Tudor.
Tiens, on le disait au 32-16, n'hésitez pas à intervenir, que ce soit pour les supporters du Racing. Dans quelques minutes, on finit notre discussion autour de l'OM. Garen, qui est avec nous au 32-16. Salut, Garen.
Tu
es plutôt d'accord avec les propos notamment de Lionel sur l'attitude de
Dylan Sidor et ses remplaçants.
Allô ?
Oui, vas-y.
Oui, du coup, voilà, moi j'ai appelé parce que déjà, tout simplement, moi je suis un peu en désaccord avec Tudor. Déjà, pour moi, le choix de Tudor, il est un peu précipité. qui, pour moi, il aurait jamais dû être entraîneur de l'OM.
Après, voilà, il l'est maintenant. Désormais, passons à autre chose, j'ai envie de te dire.
Maintenant, il est très bien. Déjà, sa composition, pour moi, est pas bonne. Il joue avec Veretout. Bon, pas ce soir, parce que, mais cette semaine en Champions League, joue avec Veretout, Rongier, en milieu de terrain. Pour moi, ça apporte rien facilement. Et voilà, on n'est pas dangereux facilement. On a trop peu de joueurs techniques capables de faire des différences, à part Harit. Sanchez ne joue pas à sa place, Guendouzi ne joue pas à sa place. Donc voilà, j'espère que ce soir, les remplaçants vont apporter vraiment quelque chose, parce que je trouve que l'OM est en danger sur ses prochains matchs, sur les matchs précédents. J'avais eu, je crois que vous avez eu avant le match d'OM-Angers, j'avais dit que l'enchaînement des matchs, ça pourrait nous porter les préjudices. Et voilà, c'est en train de faire, parce qu'on enchaîne des mauvais matchs. Et à l'OM, quand tout va bien, ben, tout va très bien. Et là, ça peut, pour moi...
Quand tout va mal, tout va très mal.
Le paradoxe, Timothée... pardon, Gareth, je t'attends juste. Je retrouve Timothée Mémon. C'est vrai que ce qui est affolant, c'est que les supporters réclament régulièrement un Payet ou Bamba Dieng, etc. Et là, ils sont mis sur le terrain, avec Kunder également. Ah, ben Igor Tudor, il fait tourner, etc., etc.
Oui, alors c'est vrai que enfin c'est toujours pareil. On prête des propos au public marseillais, mais le public marseillais, il est comme le public du monde entier. Il est comme le public de l'équipe de France. Il est composé d'avis très différents. Alors
absolument.
Forcément, il y a ceux qui sont pas des grands fans de Tudor, qui l'ont sifflé en début de saison et qui aujourd'hui, eh bien, sont, on va dire, des Tudor sceptiques qui attendent d'être convaincus. Certains l'ont été, certains le sont encore parce qu'il fait pas l'unanimité. On rappelle quand même que l'Olympique de Marseille, entre son match de Francfort et celui de Strasbourg, il y a une heure et demie de voiture, une heure et demie, deux heures entre les deux villes, sont restés ici, hein, les Marseillais, pour préparer le match de Strasbourg. Peut-être qu'après la défaite face à Francfort, un retour à la commanderie aurait peut-être été, allez, pas délicat, mais il y aurait peut-être eu des oreilles qui sifflent ici et là. Il faut pas s'incliner aujourd'hui. On le rappelle, autre fait important, et ça c'est dans la communication d'Igor Tudor, et là je te rejoins, Salim, sur le fait qu'il ne fait pas l'unanimité. Je parlais tout à l'heure de son côté, tout va mal quand l'équipe gagne, tout va bien quand elle perd. Il y a autre chose qui pose un petit peu problème, c'est cette phrase qu'il a lâchée après le match de Francfort en disant que ce serait le match de l'année. Alors le match de l'année, d'accord, oui, ce match pourrait permettre à l'Olympique de Marseille de se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ce serait extrêmement important, contre Tottenham, pardon, ce serait extrêmement important dans l'histoire européenne de l'Olympique de Marseille. Mais Marseille reste sur trois défaites en championnat. Alors je suis le premier, je suis journaliste, je fais des conférences de presse en permanence, les poncifs qui nous disent que le match le plus important c'est le prochain, j'en ai jusque là, mais là en l'occurrence il y a peut-être une fois où le match le plus important, c'est le prochain. C'est celui-là. C'est celui face à Strasbourg, parce qu'après trois défaites en championnat, l'OM ne doit pas se faire décrocher de la course au podium. L'OM ne doit pas être décroché du Paris Saint-Germain. Donc, il faut s'imposer face au premier non relégable du championnat.
Et puis une chose, Tim. Vas-y, Lionel.
Est-ce que tu penses pas, Tim, que justement, il a répondu ça parce que il était dans une ambiance Ligue des Champions, c'est-à-dire que c'était la conférence de presse pour le prochain match de Ligue des Champions, et il a dit ça sera une finale. On le remet dans le contexte, parce que après cette conférence de presse là, qui était bien après son match de Ligue des Champions et tout, le lendemain il était déjà tourné sur Strasbourg et il disait que ce match était très important aussi. Moi je pense que là on a un petit peu surinterprété ses propos.
De toute façon, Lionel, quoi qu'il arrive, on sait que la meilleure préparation pour Tottenham c'est le match de maintenant.
Surtout en ce moment,
parce que si jamais tu devais perdre ce soir, imagine la pression encore plus énorme face à Tottenham.
Et d'ailleurs, en parlant de ce Marseille-Tottenham, plutôt oui, Marseille-Tottenham qui aura lieu, ce sera mardi, on vous le rappelle, à la radio sur RMC et à la télévision sur RMC Sport.
Vous voyez, on est en train de parler de Tottenham avant Strasbourg.
Mais oui, non, mais c'est ça, parce qu'on évoque l'Olympique de Marseille. Et Tottenham, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un match incroyable qui va sans doute booster les Spurs. Ils étaient menés 2-0 à Bournemouth et ils ont gagné dans les arrêts de jeu 3-2 au final à l'extérieur. Ça peut compter aussi dans les têtes.
Mais peut-être que l'OM va faire ça à Strasbourg.
En tout cas, tu as raison, Lionel. Hein, tu as raison de dire qu'il était dans un contexte Ligue des Champions et si et ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais Igor Tudor, c'est pas la première fois qu'il fait une conférence de presse d'après match. Il a pas commencé à entraîner hier. Faut qu'il fasse. Faut qu'il la maîtrise, sa communication.
Le petit mot, t'as raison, le petit mot. Mais avant ça, il y a le match de Strasbourg. Dans la même conférence de presse, il aurait pu mettre dans la même phrase.
C'est vrai.
Je suis d'accord.
Mais, messieurs, on va s'arrêter sur Marseille, puisqu'il y a plein de messages sur l'application RMC et l'onglet direct studio. quand est-ce que vous allez parler du Racing? Ben, on va en parler dans une minute à peine. Merci Garen au 32-16 qui était avec vous pour évoquer l'Olympique de Marseille. Et juste, j'en profite, puisque depuis tout à l'heure, on donne des résultats de Coupe de France. Énorme surprise, Le Havre, dauphin de Ligue 2, sorti par Alençon, club de National 3, 3-3 et une victoire au tir au but d'Alençon. Je pense que Stéphanie doit être un peu heureux là au moment où on parle.
Ah,
lui, le natif d'Alençon. Allez, dans moins de deux minutes, on parle du Racing. Un Racing en difficulté cette saison en Ligue 1.
RMC Intégral Foot.
Salim Bengali.
Un quart d'heure encore avant le Strasbourg-Marseille à vivre à partir de 21h sur RMC. Toujours en compagnie de Sébastien Piocel, le Lionel Charbonnier, Sébastien Ruffet et Timothée Lémon qui sont eux à la mélo. On va s'attarder et évoquer désormais le Racing. Une seule victoire en 12 journées de championnat. Une situation qui a été évoquée également par Julien Stéphan en conférence de presse hier.
Il en reste 3, on continue à prendre match par match. Non, on change pas. Il y aura une coupure, longue coupure. On est sur 4 points pris sur les 3 derniers matchs. C'est beaucoup mieux que notre moyenne de début de saison. J'espère qu'on sera en capacité de maintenir ce rythme-là à minima pour bien terminer. C'est un calendrier qui est difficile pour nous. Mais on a 4 points pris sur les 3 derniers matchs et il faut continuer à développer ça.
Avec le micro, c'est encore mieux. Julien Stéphan, hier en conférence de presse avant ce Strasbourg OM. Sébastien Ruffet, Julien Stéphan, il évoque effectivement une période un peu meilleure. C'est vrai qu'on a l'impression que Strasbourg se réveille enfin, j'ai pas ce qu'on veut dire.
Ouais, un tout petit peu meilleur. C'est vrai que 4 points sur les 3 derniers matchs. Il y a eu la victoire à Angers. Le match nul à Toulouse la semaine dernière, entrecoupé d'une raclée à domicile contre Lille 3-0. Alors c'est vrai que ça fait 4 points sur les 3 dernières journées et que sur les 9 journées précédentes, il n'y avait quand même que 5 points. Donc, mathématiquement, en effet, c'est un petit peu mieux. Et si tu écoutes le son en creux, il dit il faut qu'on garde ce rythme-là. Ça veut dire 4 points sur les 3 matchs qui nous restent à jouer avant la fameuse trêve de la Coupe du Monde. Il y a Marseille ce soir. Il y a un déplacement à Ajaccio la semaine prochaine. Et il y aura la réception de Lorient le dimanche d'après. Donc il faut prendre une victoire et un nul sur ces 3 matchs-là, en gros, pour continuer avec ce petit rythme-là et se relancer en championnat. Donc on voit que chaque match, forcément, tu prends un point, par exemple, ce soir, au moins un point. Déjà, tu te mets un petit peu moins de pression sur les suivants. Mais ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte les difficultés de ce Racing Club de Strasbourg, notamment physiquement. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer. On parle tout à l'heure de l'Olympique de Marseille, qui est peut-être en train de tirer un petit peu la langue avec ce jeu qui demande beaucoup de courses. Il l'a redit d'ailleurs, Igor Tudor, on fait une parenthèse, mais 117 km contre Lens, ils ont fait un bon match. J'ai regardé le match. Il y avait beaucoup d'intensité, mais c'est les Lensois qui ont fini plus fort. Et c'est ce qui manque à Strasbourg par rapport au Strasbourg de l'année dernière, cette capacité à répéter les efforts, à faire ce pressing haut, constant. Et là, le compte n'y est pas parce qu'il y a eu beaucoup de blessures, parce qu'une prépa qui a été, ça on le sait, qui a été un peu allégée, ça a été un choix de mettre un foncier un peu moins important pour peut-être attaquer plus rapidement ce championnat. Peut-être que ça a été une erreur, peut-être que ça a été aussi le cas dans d'autres équipes qui sont en lutte en bas de tableau également et dont on sent que l'impact physique n'est pas tout à fait au rendez-vous.
Sébastien, ils ont été malheureux aussi un peu par moment, les Strasbourgeois. Dans le contenu, il y a eu des matchs quand même intéressants. Depuis le début de la saison, les 3-4 points supplémentaires,
tout n'est pas à jeter évidemment, mais ça fait plein de petites choses qui font que les points ne sont pas là. Il y a beaucoup de frustration, mais quand t'es un petit peu en dessous physiquement, mais si t'es à 85-90% et qu'en face ils sont tous à 100%, et tu finis par le payer parce que t'as pas le petit coup de rein Kevin Gamero, peut-être qu'il lui manque 5 cm pour mettre le but à Brest, ça fait un partout. Peut-être que sur une intervention défensive il va manquer 10 cm à un défenseur et ça va faire but et tu vas le prendre quand même. Donc c'est des petits détails, hein. Le football de haut niveau, c'est que ça.
Et t'as pas le sentiment que cette tendance, justement, je suis d'accord avec Seb, elle commence à s'inverser parce qu'il y avait des matchs où ils étaient malheureux, franchement, ils perdaient des matchs qu'ils ne devaient pas perdre, il se passait des trucs incroyables contre eux et tout ça. Et puis là, ces derniers matchs, bon, ils sont allés, il y a eu cette victoire où ils se sont fait un petit peu peur en fin de match contre Angers, mais ils ont gagné 3, ils gagnent quand même ce match-là dans la difficulté, ils le gagnent. Et puis derrière, il y a un 2-0 contre toi, contre Toulouse, alors que à la même, une période un petit peu plus avancée, tu perdais ce match-là. Et là, ils vont arracher un nul qui a un goût de victoire. Et ça, je pense que dans le dynamisme de groupe et tout, c'est voilà, quand tu fais un nul, tu perds 2-0, tu arrives à 2-2, tu as l'impression que tu as gagné, honnêtement. Oui, et ça, c'est ça renverse la tendance mentale des Strasbourgeois. Moi, c'est mon analyse.
Oui, et puis il y a quelque chose qui est intéressant aussi, Lionel, c'est que c'est vrai que quand tu lis un petit peu les commentaires des supporters, tu discutes un peu avec eux, ils avaient le sentiment que cette équipe du Racing, elle se résignait un petit peu vite, qu'elle rendait un petit peu les armes, qu'il y avait du mal à 1-0 ou à 2-1, on ne sentait pas la révolte. Et là, effectivement, l'équipe a été capable de se révolter, de revenir. Il y a eu aussi ce penalty qui a été refusé à la dernière minute, qui a vraiment engendré un sentiment vraiment de colère. Et pour la première fois de la saison, après plusieurs coups de sifflet un petit peu discutables, des cartons rouges pour Persic, pour Niamsi, qui ont été très mal vécus parce que c'était pas des gestes. Voilà, un penalty accordé à Montpellier alors que le même est refusé aux Strasbourgeois 15 jours après. Et là, on a vu Dimitri Liénard sortir de sa réserve, Julien Stéphan pour la première fois sortir de sa réserve également sur l'arbitrage. Et on sent que voilà, peut-être que là, il y a un côté de dire bon allez, maintenant ça suffit, le karma, le destin, ce que vous voulez, on va prendre ça en main parce qu'on on a assez subi.
Juste, alors si je vous entends bien, Sébastien Ruffet, Sébastien Piocel, Lionel Charbonnier, je rappelle, le RCS, c'est la seule équipe à une victoire cette saison. Même le dernier, Angers, on a gagné deux des rencontres. Pourtant, quand je vous entends tous, Sébastien Piocel, je vous passe la main, on a l'impression que on a de l'espoir pour le RCS.
Je suis pas trop inquiet, moi, en fait. Je pense que c'est un groupe qui a quand même des certitudes. Après, j'avais pas l'information par rapport à la préparation un peu plus légère. Et ça, c'est vrai que ça a pu jouer dans le mauvais début de saison de Strasbourg. La chance qu'ils ont, quoi qu'il arrive, c'est que il va y avoir cette coupure bientôt et que quoi qu'il arrive, ils seront pas décrochés non plus. Mm-hmm. Donc il y aura aussi une grosse phase de travail aussi à faire pendant la Coupe du Monde. Et puis surtout, au-delà de ce match contre l'OM, il y a cette confrontation face à Ajaccio lors de la prochaine journée, ouais. Et un match à domicile face à Lorient. Donc ils peuvent encore se remettre bien. Et puis il y a le retour de Ludovic Ajor.
Ajor, Motiba également qui est revenu, qui a marqué, enfin qui a été clé en tout cas face à Toulouse. Quand on entend tout ça, Lionel, toi t'es plutôt positif et optimiste pour le RCS.
Oui, alors je m'excuse pour les supporters angevins, mais aujourd'hui tu me demandes de jouer ma maison obligatoirement sur un des deux. Honnêtement, j'ai plus de doutes du côté angevin que du côté strasbourgeois, parce qu'il y a aussi une profondeur d'effectif.
Il y a des angevins qui vont vouloir ta maison, attention.
Comment ?
Il y a des angevins qui vont vouloir ta maison là.
Ouais. Non, je m'excuse pour ça, mais c'est vrai que je suis comme Seb. Je pense que il y a beaucoup plus de potentiel du côté strasbourgeois que du côté que ce soit au niveau de l'effectif au complet. Il y a eu tout ça aussi. Il y a eu pas mal de blessures à gérer. Il y a eu, il y a eu plein de choses et tout a été dit par je sais plus qui est-ce qui racontait ça. Toutes les mésaventures des Strasbourgeois. Aujourd'hui, ils ne veulent plus, ils n'acceptent plus ça, et des Strasbourgeois vexés avec l'effectif et le nombre de l'effectif et la qualité de cet effectif-là, avantage à Strasbourg. Mais attention, parce que si tu te dis ça toute l'année et que tu fais pas les efforts, pendant qu'Angers peut faire les efforts, il faut vraiment se retrousser les manches quand t'es strasbourgeois tout de suite, parce que et ne plus accepter ça. Sinon, tu te réveilles, il reste 3 matchs et tu joues ta tête.
Et puis ils seront pas que 2 à descendre, il y en a 4. T'as dit que
ça va aller très très vite. Donc il faut se relever les manches tout de suite, que ce soit à Angers ou à Strasbourg.
Absolument, messieurs, votre dans un instant Sébastien Ruffet, Timothée Mémon, mais d'abord Julian Boubnov vient d'entrer en plateau. Il est 20h53 sur RMC.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Lionel, salut Seb également. On va parier sur ce match.
Salut,
la victoire de Strasbourg est cotée à 3,40, le match nul à 3,50 et la victoire de l'OM à 2,15. Une seule victoire cette saison pour Strasbourg et 0 à domicile. Marseille, ça va pas forcément mieux non plus. 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour l'OM. C'est un match qui peut relancer les deux équipes et j'ai tendance à penser que l'OM, avant le gros choc face à Tottenham mardi, doit se relancer. Donc je vois Marseille ne pas perdre et les deux équipes qui marquent à 2,15. Est-ce que Lionel, tu vois quelque chose pour ce match en particulier ?
Moi, c'est simple, je vois le 1 partout sec.
Le 1 partout sec est coté à 5,80. Et Seb,
Moi, je vois bien le nul à la mi-temps et l'OM qui s'impose à la fin de la rencontre.
Et ça, c'est coté à 5. Sinon, on peut peut-être parier sur les scores exacts multi-choix. 1 partout, 1-2 ou 1-3 en faveur de l'Olympique de Marseille. C'est coté à 3,15. Tous les paris de la Dream Team sont à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Julien Boubnov. Dans quelques toutes petites minutes, Strasbourg-Marseille également. Vous suivrez aussi du rugby. Hein. Il y a le match de Bayonne face au Stade Toulousain. Tout ça évidemment sur RMC. Seule radio à vous proposer les 10 rencontres de Ligue 1. Dans un instant, l'After Live avec Nicolas Jamin et Kevin Diaz.